Pourrons-nous encore pratiquer longtemps le trail et les sports de nature comme nous le faisons actuellement? Car nous aimons ce temps passé en nature, découvrir des parcours pendant les trails, les paysages en vélo, nager parfois en lac ou en rivière, faire du gravel, du bivouac. Mais est-ce que ça va durer? Et quels sont les dessous et l'impact pour la planète de nos activités sportives comme le trail? Eh bien, c'est le sujet de l'épisode du jour. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopins. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et je le disais donc en intro, aujourd'hui nous allons parler écologie et impact de nos pratiques sportives sur la planète. Et donc finalement aussi de l'avenir de nos pratiques que nous adorons. Mais finalement, pourrons-nous continuer longtemps comme ça? Des épreuves de triathlon sont bousculées à cause de la pollution des eaux, des nageurs sont malades ou prennent des cachets pour ne pas l'être, des épreuves sont critiquées pour leur gigantisme et l'impact sur les terrains, des espaces commencent à être limités, des coureurs se posent la question de la taille des événements. Certains chercheurs se posent aussi la question des bouts de chaussures, des fibres de vêtements que nous laissons quand nous faisons du trail, sans parler de ces trognons de pommes ou peaux de banane que nous laissons en se disant que finalement, ça allait se dégrader tout seul. Mais est-ce vraiment vrai? J'ai invité Élise pour venir parler de ce sujet qui la passionne. Élise est sportive, traileuse, bénévole sur des courses, diplômée d'un DU trail, mais aussi étudiante. Elle a fait un mémoire sur le développement durable des événements trail et maintenant, elle est dans la science de l'environnement. Il se trouve qu'elle est actuellement à La Réunion pour un autre stage sur l'écologie. Et donc, finalement, elle est un peu aux premières loges pour observer ce qui se passe sur les chemins quand on y fait passer des marcheurs, des trailers ou des courses. Mais cet épisode ne concerne pas que La Réunion et son fameux trail, mais plus largement l'impact de toutes nos pratiques dans la nature. Dans cet épisode, Élise nous fait découvrir justement qu'est-ce qui se passe quand nous passons, quels sont les impacts que peuvent avoir nos pratiques sur nos terrains de jeu, ce qu'il se passe par exemple sur un chemin quand des centaines de personnes passent dessus, le temps qu'il faut pour qu'il retrouve son état normal, surtout après une grosse course comme un trail par exemple à La Réunion, comment de nouveaux chemins se créent aussi, les problèmes que ça pose, ce que font et peuvent faire les organisateurs de courses et notamment de trail pour préserver l'environnement et éviter justement que certains terrains ne puissent pas être traversés parce qu'on pense que ça va les abîmer. Ce qui se fait aussi dans certains pays pour les déchets, les déjections de chiens. Vous allez aussi découvrir que des marmottes deviennent diabétiques à cause de nos pratiques et de ce qu'il faudrait faire aussi quand nous faisons caca dans les bois. Dans cet épisode, nous abordons beaucoup de sujets et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Mais on ne pouvait pas aborder tous les sujets dans le même épisode, donc on a fait un second épisode qui sera diffusé ce vendredi sur Sport et Nutrition. Et là encore avec Élise, nous avons parlé spécifiquement de la partie alimentation. Car nous le savons, le sport nous fait consommer plus d'aliments et plus de calories pour nourrir notre corps par rapport à l'effort. Et donc, ça a un impact finalement sur ce que nous consommons. Et donc, est-ce que ça a un impact aussi sur l'état de notre planète ? Vous aurez la réponse dans l'épisode de vendredi. En attendant, je vous laisse écouter cet épisode avec Élise sur justement l'impact sur la nature directement de nos activités et cette question, pourrons-nous encore les faire très longtemps et pourquoi c'est intéressant d'observer la nature et de se poser justement cette question. Allez, c'est parti.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Bonjour Élise.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, il a fait beau aujourd'hui, la moitié.
Bon, écoute, moi je vais pas me plaindre parce que en Auvergne aussi il fait beau, mais toi t'es pas du tout en Auvergne, c'est loin.
Ouais, non, moi je suis partie à La Réunion là depuis août, j'y reste pour un an et demi, ce qui n'était pas prévu à la base. Je devais rester que 6 mois et puis au final, je reste un peu plus longtemps.
D'accord. Tu peux nous dire ce que tu fais à La Réunion?
Alors, je suis étudiante en sciences de l'environnement et je me spécialise en biodiversité. Et du coup, j'étais partie pour faire un Erasmus parce que, bon, je suis française, mais je fais mon master à Genève. Et suite à ça, je devais enchaîner sur un mémoire de recherche. Et j'ai eu l'opportunité de le faire sous forme de stage, donc à l'IRD, c'est l'Institut pour la Recherche et le Développement. Et du coup, je travaille sur l'écologie fonctionnelle des espèces invasives et exotiques. En gros, je vais prélever des feuilles dans la forêt et je vais mesurer des caractéristiques comme le poids, la taille, ce genre de choses. Et je les compare, en fait, je compare les espèces invasives et les espèces, pardon, c'est les espèces exotiques invasives et les espèces endémiques menacées. Et je regarde quelles différences il peut y avoir.
Sacré programme. Mais t'es arrivé, parce que c'est pas tes seules études, et on va en parler un petit peu justement, parce que t'as un parcours. Je vais te les... Alors, t'as présenté une partie de ce que tu fais. Qu'est-ce que t'as fait avant, et justement qui t'amène ici, parce que comme ça, les gens comprendront un petit peu ton histoire et le côté aussi un peu passion, je pense, de cette protection de la nature, de l'environnement, de tout un tas d'éléments.
Alors du coup, moi j'ai commencé, donc j'ai fait un bac S, et après je suis partie en licence de chimie parce que je devais faire une licence en parcours international, donc c'était un peu un choix par défaut. Je savais pas trop entre bio, sciences de la terre, chimie, et là j'avais eu cette opportunité, et j'ai fait mes 2 premières années du coup à Bordeaux, et en 3e année je devais partir à Berkeley, donc aux États-Unis, sauf que bon bah c'était en 2020, voilà. Donc, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et au final, j'ai pas pu partir. Et je voulais pas rester à Bordeaux parce que, enfin, la chimie, c'était pas ma vocation. J'aimais bien ça, mais je voulais plus m'orienter, en fait, après vers la bio, biochimie plutôt. Et donc, j'ai décidé de partir à Grenoble. Et là, je devais faire, du coup, je devais rattraper une L3 en biochimie. Sauf que j'ai fait 2 semaines et j'ai vu que j'avais pas du tout le niveau en bio. Donc, je suis repartie en licence de chimie classique. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, avec les conditions de Covid et tout ça, j'ai fait un burn-out. Et du coup, les médecins m'ont dit, bah, là, tu te mets en césure pour 1 an, faut que tu réfléchisses à tes projets, etc. Donc là, c'est là que ça a un peu commencé, c'est que je me suis retrouvée à Grenoble, je commençais déjà un peu à courir, et là, je me suis mis vraiment au trail, j'ai rencontré des gens, je me suis intéressée aux questions vraiment de qu'est-ce que c'est que le développement durable, qu'est-ce que c'est que la durabilité, questionner en fait les définitions. Donc j'ai vraiment commencé le trail à ce moment-là, à découvrir la nature. J'ai fait mon année de césure et je me suis dit, bon, ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma 3e année de licence pour essayer de faire un master en sciences de l'environnement. Et entre-temps, pendant mon année de césure, j'avais candidaté un diplôme universitaire en trail à Grenoble, sauf que pour des problématiques administratives, j'avais pas été prise en 2020. Et du coup, j'ai retenté en 2021 en parallèle de ma licence de chimie, et là, cette fois-ci, j'ai été acceptée. Donc j'ai fait ma licence de chimie et puis le DU Trail. Alors le DU Trail, c'était pas à temps plein, c'était des blocs, donc ça, je pouvais tout à fait suivre les deux en même temps. Donc j'ai fini ma licence de chimie, j'ai fait ce DU et en fait pendant mon année de césure, j'ai découvert vraiment le bénévolat aussi en trail et je me suis posé la question de la durabilité dans ce sport parce que je voyais qu'il y avait des dissonances en fait entre un sport que je pensais vraiment proche de la nature et puis ce qui était en réalité. Donc j'ai décidé de faire mon mémoire de diplôme universitaire sur le développement durable des événements en trail. Et suite à ça, j'ai pu embrayer en fait sur un master en sciences de l'environnement à Genève et à vouloir vraiment me spécialiser en biodiversité et à m'intéresser de plus en plus en fait aux impacts des sports de nature et surtout la rando et le trail sur l'environnement.
Et alors, dit ça depuis La Réunion, où c'est quand même un territoire où il y a une course énormissime, et on se dit avec autant de gens. Où je rappelle, parce que l'autre jour j'ai discuté avec quelqu'un qui savait pas que les bâtons étaient interdits sur la Diagonale des Fous. Et il me dit, oh, je pars à La Réunion, je m'entraîne avec les bâtons. Je lui dis, mais t'as pas le droit aux bâtons à la Diagonale des Fous et tout. Mais c'est en plus, c'est un territoire. Enfin, ça pose problème quand même, soyons honnêtes.
Oui.
Diagonale des Fous, je sais pas combien y a de participants. Sur les chemins, c'est déjà pas large. C'est un territoire quand même qui est. Tu nous diras mieux que. Parce que toi, t'es dedans, donc tu le vois. Mais c'est pas anodin d'organiser une telle course. Je parle même pas du fait qu'il faille prendre l'avion pour y aller. Je parle juste du fait de mettre autant de gens qui courent sur les chemins. Parce que l'avion, on pourra en parler, c'est encore notre sujet. Mais n'empêche que passer sur les chemins avec autant de personnes et tout, c'est pas anodin pour la nature, toi qui la côtoies là en permanence.
Non, non, c'est pas. Ça pose des gros impacts sur la diagonale des foules. Il me semble qu'en tout, sur toutes les courses, il y a 3 000 participants. Et en fait, on les fait passer sur des sentiers qui sont les sentiers du GR-R2, sentier que j'ai fait. Et je peux garantir que les chemins sont pas larges du tout. Il y a beaucoup de rochers. Et surtout, à La Réunion, on est dans ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Donc c'est le hotspot des Mascareignes avec Madagascar, Maurice et Rodrigue. Et ce sont des endroits de la planète qui ont à la fois une très grande richesse de plantes rares et à la fois beaucoup d'espèces menacées. Donc effectivement, c'est un milieu qui est très fragile. Et on a une course comme ça qui va amener... En fait, ça va être des sentiers où, oui, il y a de la fréquentation en temps normal. Mais là, quand il y a peut-être... Je sais pas, peut-être 30 personnes par jour qui vont passer sur le sentier. Et puis là, d'un coup, avec l'événement, on va en amener 1 000, 2 000, 3 000 qui vont passer sur un sentier. Et là, ça génère des impacts. Donc, notamment, ceux qu'on va le plus voir, c'est l'érosion. Et là, d'où l'interdiction des bâtons. En fait, l'interdiction des bâtons, c'est le parc national de La Réunion qui a imposé ça. Et donc on va y avoir l'érosion. Donc l'érosion, on peut dire, ok, c'est quoi le problème de l'érosion? Le problème de l'érosion, c'est que ça va impacter la qualité de l'eau, parce que quand ça s'érode, bah, il y a des flux d'eau, ça génère de la boue, et donc ça va contaminer les ruisseaux. Ça va causer de la compaction du sol. Donc le sol, il est beaucoup plus compact, on a un changement de texture, on a des changements physico-chimiques, ce qui fait que les plantes, en fait, ont beaucoup plus de mal à pousser. Ça va causer des problématiques aussi de mise à nu des racines. Et notamment à La Réunion, on a beaucoup de grands arbres et ces racines vont être mises à nu. Et ce qui fait que bah, l'arbre, en fait, il va être beaucoup plus à même d'être abîmé et de pouvoir être mis en danger quoi, sur sa santé. Et puis, ça pose aussi des problèmes de sécurité, surtout dans un milieu comme La Réunion où il y a des très fortes pluies. Par moment. Donc là, on vient de sortir en fait justement de l'été, de la saison des pluies. On est doucement en train d'en sortir. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup de sol nu, ça fait qu'il y a des plantes. Les plantes, elles sont plus là pour retenir le sol. Et donc, on a beaucoup plus facilement bah, des glissements de terrain. Et puis après, bah, quand on court, des trous, des ravines. Enfin, il y a des endroits, c'est impressionnant. C'est notamment sur la fin de la Diagonale des Fous. On passe dans le parc du Colorado juste avant de redescendre sur le stade de la Redoute. Et là, il y a des endroits, en fait, les deux côtés, on va voir les deux côtés du sentier qui sont, mettons, enfin, à hauteur normale. Et au milieu, on a un trou, une ravine, mais des fois, ça fait 30 ou 50 cm. Et juste, c'est l'érosion qui a fait ça, quoi. Et ça, c'est le passage. Et après, il y a différentes études qui ont montré qu'en fait, les impacts, il y a des impacts qui vont se résorber. En fait, par exemple, si on fait passer 1 000 coureurs, enfin, dans la laitue, en l'occurrence, c'était 400, c'était pas 1 000. Mais en gros, on fait passer 400 coureurs. Donc, on voit que la végétation, le lendemain, bah, il y a beaucoup plus de sol nu. Au bout d'un mois, ça empire. Mais au bout de 6 mois, bah, c'est de nouveau la végétation est revenue. Mais ça veut dire qu'en 6 mois, ça suppose qu'il n'y ait pas d'autres passages qui reviennent. Donc, ça veut dire qu'il n'y ait pas d'autres courses, que le sentier il soit laissé en jachère, en fait. Et pardon, spam. Et en fait, donc il y a des impacts comme ça qui vont se résorber. Et puis il y a d'autres impacts, par exemple les changements de texture du sol, le fait qu'il va y avoir des trous, des choses comme ça. Ça, c'est des impacts qui, au bout de 6 mois, ça se résorbait pas.
D'accord.
Et donc bah, on voit la problématique quand on a des courses, surtout bah, bon, là, en l'occurrence La Réunion, c'est un peu particulier parce que c'est un petit territoire où on a énormément de courses. On a quasiment enfin, tous les week-ends, etc. Et il y a quand même assez peu de sentiers. Donc ça veut dire que les courses repassent et repassent sur les mêmes sentiers et que le sentier n'a pas le temps de souffler. Et ça pose aussi toutes les problématiques d'espèces invasives. Ça, je pourrais aussi revenir dessus, qui est un gros problème ici. Donc il y a vraiment pas mal d'impact. Et j'ai récemment lu un truc. Enfin, là, je l'ai lu, j'avais pas pensé à ça, mais la pollution au microplastique.
Ouais,
J'y
gros
avais pas
sujet,
du tout
gros
pensé.
sujet ça.
Ouais, surtout que là, dans l'étude où il parlait de ça, il disait quoi? Et c'est vrai, on est dans un milieu qui est protégé. Donc en l'occurrence, à La Réunion, le cœur du parc national. Et en fait, si on réfléchit, il y a très peu de vecteurs d'introduction du microplastique, excepté les pratiquants de sport de nature, les randonneurs, etc. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est une grosse question parce que les impacts à court terme et à long terme, on les connaît encore très très mal, en fait.
Et c'est un sujet qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on en parle beaucoup pour l'alimentation de l'homme, hein, et il y a tout en ce moment les débats sur l'interdiction de certains produits, sur tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que pour la nature, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y pense. C'est un sujet qu'on avait abordé, et c'est drôle parce qu'on part alors à l'autre bout de l'Europe. On peut partir en Norvège. On l'avait abordé avec Diane, dans un épisode avec Diane, qui, elle, travaille dans le tourisme en Norvège et tout. Et elle avait rappelé quand même que la Norvège est très sensible à ces histoires de dépôts, est-ce que les chaussures laissent des traces, les particules de chaussures. On parle là vraiment en plus, c'est même pas, on parle même pas des gens qui laisseraient tomber un gel, qui laissent tomber des gourdes d'eau, des trucs comme ça. Je parle même la pratique, juste de l'usure de la chaussure, les fibres textiles, je ne sais plus qu'on avait parlé, enfin, il y a des trucs dans le genre-là. Et en disant, les Norvégiens veulent faire des études très spécifiques pour mesurer un petit peu ce qui se passe, pour que ça soit le. Je sais pas, est-ce qu'on peut arriver à une situation neutre? Parce que, à part empêcher les gens de passer, c'est compliqué de ne pas avoir ces rejets-là de. Tu vois, quand je parle de chaussures, ou alors les faire courir à pieds nus. Enfin.
Il y a par endroits, ça peut être possible. À d'autres endroits, je pense que c'est un peu plus risqué. Genre les scories pieds nus, je ne tenterai pas. Mais ouais, après, il y a différentes façons. On va pas empêcher, mais déjà, il y a quelque chose. C'est au nom, quand on parle d'événements sportifs, là, je parle pas de pratiques individuelles, mais en termes d'événements sportifs, déjà, limiter le nombre de participants. Je pense que des courses à 2 000 3 000 coureurs, ça va pas. Alors ça va s'il y en a peut-être, je pense à l'UTMB. Je veux dire, c'est un peu pour moi comme le Tour de France au niveau du trail. J'ai envie de dire, s'il y avait qu'une course dans ce genre-là, ok. Mais le problème, c'est qu'elle se multiplie et qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus fréquemment. Donc déjà, je pense qu'il faut se dire limiter le nombre de coureurs. Il faudrait, j'avais vu, c'était, il faudrait par exemple sur les sentiers de moins de 1 mètre de large, il faudrait qu'il y ait 300 coureurs maximum qui passent à la journée.
D'accord.
Donc, limiter le nombre de personnes parce qu'on va avoir un afflux continu de microplastiques avec des randonneurs et tout. Mais par exemple, là, on parle de sentiers où en temps normal, il y a peut-être 10-12 personnes par jour. Et là, d'un coup, on en balance 500, 600, voire plus. Donc, ça fait un pic en fait dans l'apport en microplastiques. Il peut avoir après des conséquences. En fait, ça fait un ajout. Et donc, il y a au niveau, effectivement, des courses et puis au niveau des parcours, du type de parcours, parce que l'étude, en l'occurrence, qui a été faite, avait l'air de dire que là où il y avait les pentes les plus fortes, c'était là où il y avait le plus de dépôts. Et que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils trouvaient que c'était pas les chaussures qui laissaient le plus, mais les vêtements. Donc, c'était
D'accord.
les frictions des vêtements. Et puis après, il y a du côté des fabricants aussi de davantage réfléchir, d'intégrer cette problématique, parce que c'est un peu quelque chose d'émergent qu'on ne connaissait pas, donc on ne peut pas non plus jeter la pierre en mode vous n'aviez pas fait ces tests-là. Là, c'est quelque chose qu'on découvre dans le sens où il y a les études et on commence à y penser, mais voir ça au niveau des différents fabricants, parce que là, dans cette étude-là, il y avait 4 paires de chaussures. Je crois que je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y avait des Saucony, il me semble qu'il devait y avoir des Brooks et une troisième. Mais en fait, les Saucony, c'était les soft, enfin, qu'il y avait une gomme qui était très molle. Je crois que l'autre, c'était au milieu, et la troisième, c'était des chaussures plutôt dures. Et ils se sont aperçus qu'en fait, sur les chaussures de trail qui ont tendance à vouloir faire une semelle assez molle pour qu'il y ait un bon renvoi, que ce soit confortable, c'est celles-là qui perdent le plus, alors que des chaussures de route où on a des semelles plus dures, les chaussures de route avaient tendance à moins perdre. Donc en fait, c'est un travail, je pense, conjoint entre les fabricants et les organisateurs, les gestionnaires. Et puis, on ne comprend pas encore bien cette problématique, donc encourager les recherches là-dedans. Et puis, tant qu'on ne comprend pas quelque chose, il y a deux grands principes, en fait, dans le développement durable. Il y a le principe de précaution et le principe de prévention. Le principe de prévention, c'est quand on a des preuves que quelque chose est nocif. Le principe de précaution, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, on ne sait pas si c'est nocif, mais par précaution, tant qu'on ne sait pas, on va essayer d'éviter. Et donc, je pense que c'est ce principe-là. Là, on est OK, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop les impacts, mais ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'il ne faut pas freiner là-dessus. Et faire attention.
Alors là, on parle de la Réunion. Je précise quand même qu'on n'a rien anti-Réunion ou quoi que ce soit, parce que c'est un
Non.
problème. Quelle que soit la course, je t'avais dit, quand on s'était eu en préparation, j'avais raconté l'histoire. Moi, je suis en Auvergne, j'ai Gergovie. Gergovie, il y a une petite montagne, j'ai perdu le nom, je ne sais plus le nom. Et quand il y avait un trail qui était organisé, ils avaient interdiction. On avait interdiction de passer, ou ils avaient interdiction de faire passer toutes les courses, tous les coureurs, parce qu'il y avait, à ce moment-là, c'était l'histoire des papillons. Voilà, un truc, reproduction des papillons, un territoire où les papillons viennent se reproduire, etc. Et je pense que si on prend tous les territoires du monde entier, on aura ces problématiques-là. Parce que j'en ai entendu sur les grenouilles,
Oui.
j'en ai entendu sur. On pourrait parler des animaux, on pourrait parler des lapins à certains endroits. Enfin, je dis les lapins au hasard, mais je pense que quel que soit le terrain. Et en plus, aujourd'hui, j'ai lu un article. Et pour dire à quel point c'est d'actu, en France, la promenade des chiens entre le 15 avril et le 30 juin est interdite en forêt s'ils sont pas tenus en laisse. On n'a plus le droit de les lâcher sans laisse pour des questions de reproduction des oiseaux, notamment pour éviter qu'ils aillent les embêter, qu'ils aillent fouiner, etc. Même si c'est pour jouer, pour savoir ce qu'il y a. Donc, ce qui montre quand même que la problématique, elle se concentre pas sur les courses, elle est sur comment nous, humains, faisons cas de la nature qui est autour, parce que on dit on va prendre la nature, on va profiter de l'air, on est bien dans la nature, etc. Mais comment on la préserve? C'est la grande question des sports nature, quand même, je trouve, et qui a
Oui.
totalement été oubliée.
Oui, et alors bah justement, j'aimerais bien éventuellement, si les gens qui écoutent peuvent se poser cette question. C'est une question que j'ai vue dans un article et que j'ai trouvée très intéressante. Et c'est de se poser la question, comment est-ce que je réduis mon impact sur l'environnement pendant que je cours? Et là, quelle est la première chose qui vient à l'esprit? Et la première chose qui vient en général à l'esprit, c'est je ramasse mes déchets. Et donc, en fait, les déchets aujourd'hui, c'est quelque chose, le fait de ne pas laisser des déchets dans la nature, je pense que c'est quelque chose que les gens ont intégré. Sauf pour les pots de bananes et les oranges. S'il vous plaît, ramenez vos pots de bananes et vos oranges. Les marmottes n'en mangent pas.
Alors ça, il faut que tu le racontes, parce que quand tu m'as dit ça, c'est quand même
Ouais.
hallucinant, l'histoire des marmottes. C'est quoi, elles sont diabétiques? Qu'est-ce que tu me racontais?
Alors, diabétique, ouais, en fait, il y a eu. Alors, j'ai pas réussi à retrouver l'article de base, malheureusement, j'ai trouvé des articles de journaux. Mais il y a une montagne, je crois que c'est la montagne aux marmottes. Il me semble que c'est dans les. Non, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les Pyrénées, mais je suis plus sûre. En fait, ils se sont aperçus qu'à force de laisser des déchets alimentaires, en fait, ils avaient des marmottes qui avaient des problèmes de santé, qui devenaient diabétiques, qui devenaient obèses, voilà, à cause des déchets alimentaires. Et puis après, on peut pousser plus loin. Il y a des études là qui ont été faites sur le comportement animal, qui montrent que les déchets alimentaires, ça cause donc des problèmes métaboliques, ça cause des soucis aussi dans les interactions prédateurs-proie, parce que souvent donc les déchets ils sont laissés sur des zones qui sont découvertes à découvert, et donc les animaux vont venir et vont potentiellement plus s'exposer en fait à de la prédation. Ça peut poser des problèmes dans les organisations sociales aussi des groupes. Là, il y avait un exemple sur les macaques. Mais typiquement, les macaques, ils ont une organisation dans le groupe social. Donc, il y en a qui sont plus dominants, il y en a d'autres qui le sont moins. Et ça peut venir à inverser des rapports de force et augmenter la violence au sein du groupe social des animaux, par exemple. Dans d'autres cas, ça peut contribuer à la prolifération d'espèces invasives, et je pense notamment aux rats. Donc, les rats vont venir manger, vont davantage proliférer, et ça pose des problèmes, au niveau des oiseaux, des maladies, mais principalement des oiseaux pour le coup. Voilà. Donc les déchets alimentaires, ils sont, oui, biodégradables, mais à une échelle de temps qui fait qu'ils vont d'abord être mangés par de la faune et que ça va complètement les déranger, que ça va déranger en fait le fonctionnement de la faune. Donc c'est pas juste pour emmerder le monde qu'on dit ramasser tout, c'est que ça peut vraiment avoir des impacts qu'on ne soupçonne pas et à des distances qui sont bien plus lointaines que celles sur le sentier où on est en train de marcher.
Non mais c'est
Ouais.
super intéressant parce que ça fait partie des discussions. Et tu sais, alors il y a une autre discussion qu'il y avait. Tu sais, c'est quand on a mal au ventre, qu'on veut faire caca dans la forêt ou je sais pas quoi et tout. Et il y a eu des discussions avec les propriétaires de chiens. Un jour, qui m'a dit, oui, mais nos chiens, après, ils sont malades, etc. et tout. Et moi, je disais, il n'y a peut-être pas que les chiens qui sont malades, en fait. Sinon, parce que on arrive avec nos. Enfin, on parlait, on disait, on jette une peau de banane. Mais finalement, tous ces. Enfin, c'est des détritus, nos rejets à nous. Faudrait les ramasser aussi.
Alors, J'ai travaillé sur la question.
Ouais.
J'avais écrit un article à un moment sur un blog. Bah, peut-être c'est Camille Lewood qui m'avait demandé d'écrire un article sur comment faire caca dans la nature. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas, alors clairement, il n'y a pas de bonne réponse. Déjà, il vaut mieux, en général, pour éviter toutes les problématiques de maladie et favoriser la biodégradabilité du caca, il vaut mieux éviter de le faire tous au même endroit. C'est-à-dire qu'en mode, on va tous au même endroit, comme ça on pollue qu'un endroit, oui, mais ça s'amoncelle beaucoup plus et la dégradation est beaucoup plus lente. Voilà. Après, quand on a envie d'y aller, faut y aller. Il y a une solution qui a été mise en place dans les parcs américains. Et là, j'avoue que j'ai pas la réponse. C'est donc ils ont ce qui s'appelle des wag bags. Donc c'est des petits sachets. Et quand on veut aller aux toilettes, donc on fait une espèce de petit trou, on met son petit sachet, on fait caca dedans, pipi ce qu'on veut, et on le referme. Et c'est totalement hermétique, ça n'a pas d'odeur. On le remet dans son sac et à la sortie de chaque parc, il y a une poubelle spécifique pour ces déchets-là. Parce que bah, la problématique, c'est que c'est quand même des déchets humains qui ont potentiellement des pathologies. Donc c'est un peu compliqué à traiter en tant que déchets classiques. Bon, ça pose question. On pourrait faire ça, on peut très bien. Il y a plein de tutos sur Internet hein, pour les faire chez soi, les wag bags avec de la litière pour chat, etc. La question que ça pose, c'est bah, là, pour le coup, oui, d'accord, on ne fait pas caca dehors, mais par contre, on utilise des sacs plastiques. Je tape. Donc, j'ai pas de solution, surtout qu'il y a peu d'études qui, quand même, ont été faites sur les impacts dans des pays, on va dire, développés. La plupart des études, elles ont été faites dans des pays où il n'y a pas accès à des sanitaires et où là, ils regardaient bah, au niveau des dangers pour la santé humaine et sur des endroits très, très fréquentés, type l'Everest, où là, il y a un énorme problème qui fait peur et il y a le mont Diwali. Je sais plus. Oui, je crois que c'est. Non, le Din. Denali, pardon. Le Denali, où là, il y a pareil, beaucoup de personnes qui font de l'ascension. Et le souci, c'est qu'il y a eu beaucoup, bah, depuis des années et des années, donc il y a eu du caca, qui a été fait, et aujourd'hui, on est en période de réchauffement climatique. Donc, ça commence à fondre, et la problématique, c'est que ce sont des glaciers et de l'eau qui alimentent tout un bassin versant. Donc, la pollution qui est tout en haut, tous les excréments comme ça, et bah, potentiellement ceux qui sont là depuis très longtemps peuvent libérer des bactéries, des choses comme ça très pathogènes et qui vont venir se déverser dans la totalité du bassin versant. Donc c'est vrai que dans ces milieux-là, il y a des grosses questions, il y a des études qui sont faites. Maintenant, dans les forêts telles que nous on connaît, il y a des articles qui décrivent quelle est la meilleure façon de faire, notamment par exemple pour les alpinistes de quand on est très haut et qu'il n'y a presque pas de sol. Là, ce que je veux dire va être très glamour.
Vas-y,
Mais la meilleure façon de dégrader quand on pense à l'impact, en fait, parce que le problème du caca, c'est certes, il y a l'enrichissement en nutriments, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire à côté d'un cours d'eau, si possible, parce que bah là, ça pose des problèmes d'eutrophication, c'est-à-dire qu'il y a trop d'azote et ça favorise le développement d'algues nocives. Mais quand on est en haute montagne, bah, les bactéries, elles n'aiment pas les UV, parce que ça va venir détruire les protéines des membranes. C'est comme nous, hein, les UV, ça nous crame. Et donc quand on est très haut comme ça, le mieux c'est de faire caca et de l'étaler en couche la plus fine possible pour qu'en fait les UV puissent venir le plus rapidement possible dégrader toutes les bactéries et les choses pathogènes dedans. Voilà.
Et ben, tu sais quoi, je
Allez.
pense que tous ceux qui vont faire de la randonnée cet été vont avoir une grosse pensée dans les chemins. Mais en fait, je pense que c'est un sujet. Et en fait, en course à pied, je rappelle quand même que le plus gros cas d'abandon dans la course, dans le trail, c'est quand même les problèmes digestifs. Donc, je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite sur le nombre de personnes qui sont obligées de s'arrêter sur le bord des chemins, parce qu'on pourrait parler du papier et tout. Mais moi, ce que je pensais, tu vois, surtout, c'est en plus me dire. On parle de coureurs, il y en a certains, on sait qu'ils courent sous anti-inflammatoires. Il y a les problématiques, on pourrait dire, de ceux qui prennent des médicaments, tout type de molécules, je veux dire même légales, hein, enfin franchement, mais on parle des anti-inflammatoires parce que on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous anti-inflammatoires. On n'a pas on sait qu'il y a du dopage, c'est clair parce que et c'est, je parle pas que des grands coureurs, on parle du reste du peloton où on sait dans quel état ils sont sportifs. On pourrait parler des antibiotiques, on pourrait parler de bah, ce qu'on mange, qui n'est pas présent forcément dans certains pays quand on va, etc. Et on rappelle donc les bactéries qui peuvent venir. Donc c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que ça peut faire sourire dans cette histoire-là. Sauf qu'en fait, dans la réalité, si on calcule l'impact et qu'on se dit bah, il y a 3000 personnes, il y en a un tiers qui ont mal au ventre pendant une course, et ça fait quand même un sacré paquet de trucs qui traînent. le long du chemin. Et, et là, c'est pas sans impact, j'ai envie de dire. C'est là où, oui. Où le problématique, c'est le nombre, la multiplication. Là, on parle sur deux cas de course, mais on pourrait dire aussi les chemins très fréquentés dans les Alpes pendant l'été, là où il y a de la du surtourisme dans tout un tas d'endroits. Je veux dire qu'on ne va pas viser à une zone particulière. Je le disais aussi en Auvergne, je reviens sur l'Auvergne, on a des volcans où ils ont été obligés de construire des marches en bois pour que les chemins arrêtent de se raviner, parce que sinon le volcan, il disait, bah, vous n'allez plus monter sur les volcans, parce que sinon ça passe plus.
Bah oui, alors après, bah c'est en fait, c'est toujours la même problématique avec les événements, et c'est pour ça que je pense que c'est important de parler. En fait, la problématique, elle vient de deux choses. C'est la temporalité et l'intensité. Et en fait, quand on est sur des événements ou des endroits où il y a du surtourisme pendant une seule période de l'année, bah, le souci, c'est que ça va être au même moment, au même endroit, on va avoir plein de trucs, et en fait, on va excéder la capacité qui est capable d'encaisser l'environnement à ce moment-là. Mmh. Alors que si c'est plus étalé, ben, l'environnement, c'est un écosystème. Je veux dire, il y a des flux, il y a des choses qui se passent. Donc, il y a un certain seuil de tolérance. C'est comme nous, j'ai envie de dire, par exemple, avec l'alcool, quoi. Je veux dire, mmh. On a un seuil de tolérance et au-delà de ça, ça ne va plus. Mmh. Mais pour l'environnement, c'est pareil. Et le souci, c'est que les impacts négatifs, en fait, ils vont arriver quand on va dépasser cette capacité de charge. C'est pour ça que, encore une fois, faut vraiment au niveau du nombre. En fait, la meilleure manière de réduire l'impact d'un événement, c'est d'arrêter d'augmenter les jauges, quoi, de limiter le nombre de coureurs et aussi le nombre de courses qu'il va y avoir sur un même sentier ou le délai qu'il y a entre deux courses qui vont passer sur le même sentier. Ça, c'est la meilleure façon de réduire l'impact, en fait. Parce que après, on peut mettre plein de gadgets en place, hein, et c'est pas inutile. Hein, je veux dire, il y a plein d'initiatives qui se font sur des courses, et c'est loin d'être inutile. Mais la manière, on va dire, la plus simple, la plus efficace, qui a le plus grand impact, c'est celle-là. C'est le nombre de participants.
Parce que c'est vrai qu'il y a un truc sur les courses, on se focalise beaucoup sur le ravitaillement, sur l'eau, sur ne pas avoir des bouteilles. On demande aux coureurs d'avoir leur petite. Soit de remplir les flasques, soit d'avoir des tasses réutilisables. Il y a tout un tas de trucs comme ça, on se focalise. Alors, j'ai envie de dire vraiment sur la partie ce que l'on fait, quoi. Où est-ce qu'on place les ravitaux, que les gens ne jettent pas les choses, tu parlais des déchets et tout. Mais c'est vrai que le simple fait de passer, d'amener des gens à passer, puis il y a des territoires, moi je ne sais pas, je pense qu'il y a des territoires, il doit y avoir, alors je ne dis pas une course tous les week-ends, mais il doit y en avoir 2-3 dans l'année, une au printemps, une en automne, des fois pendant l'été, il y a des courses qui se croisent, qui prennent à peu près les mêmes chemins. Moi, et je vois bien, il y a des endroits, si on parle du VVX et si on parle du Vulcain, qui sont, il y en a un pour du Château, l'autre Volvic, il y a quoi, il y a 10 bornes entre les deux, c'est des courses qui font 200 bornes, entre 50, 200 bornes, etc. Et je sais qu'il y a des endroits, ça passe pareil, hein, il y a des endroits où ça va, et c'est partout pareil, c'est normal, hein, on est sur des territoires, c'est comme ça. Donc il y a toute une réflexion, mais qui est importante et qui est pas facile pour les organisateurs, je pense, parce que la jauge, c'est leur rentabilité aussi. Enfin, c'est comment est-ce qu'on équilibre financièrement certains événements, quoi.
Oui, et puis c'est pas que aux organisateurs, on peut pas juste leur jeter la faute à eux. On est dans le cas du trail running, en fait, on est dans un sport qui est en pleine explosion. C'est le sport qui a la plus grosse croissance en termes de nombre de participants. Et donc, c'est quelque chose de très récent, où on se met d'un coup à avoir plein de choses qui débarquent. Et puis, il y a une volonté politique, parce que c'est un fort moteur de développement territorial, hein, qui a des aspects positifs sur la santé, sur le sport, qui peut débloquer des fonds pour des aires protégées. Donc, il n'y a pas que des aspects négatifs, loin de là. Mais on est un peu comme embarqué dans une boule de neige sans réfléchir aux impacts. Et au niveau de la recherche scientifique, il y a encore assez peu de choses, notamment et surtout en Europe. Je veux dire, Chine, États-Unis, Australie, ils ont des choses, ils font des études, mais en Europe, nous, il n'y a quasiment rien. Il y a des choses qui commencent à se faire sur la faune, mais sur les impacts sur le sol et sur la végétation, rien. Donc, il n'y a pas, c'est pas uniquement les organisateurs qui doivent endosser cette responsabilité, mais c'est aussi rechercher et comprendre quels sont les impacts, parce que les impacts, ils ne sont pas pareils en fonction du milieu, quelles sont les jauges acceptables, comment est-ce qu'on peut faire, en fait, pour que les impacts négatifs ne viennent pas, ne soient pas supérieurs aux impacts positifs. Parce que l'idée, c'est pas de dire arrêter de faire des événements, c'est juste peut-être de réfléchir, Encore une fois, vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et même en tant que coureur, et je pense que c'est pas juste une question, entre guillemets, d'environnement, mais il faut pas oublier que la multiplication de courses, elle va aussi inciter à faire de plus en plus d'événements et donc potentiellement à aller se blesser, on augmente les risques, etc. Et ça va déranger aussi la population locale parce que un événement, ça veut dire plus de voitures, ça veut dire de la pollution aérienne, des embouteillages, du bruit. Il y a la pollution lumineuse et sonore, hein, on n'en parle pas, mais qui dérange aussi la faune et les habitants locaux. Donc en fait, c'est tout ça. C'est pas uniquement que l'environnement, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir sa pratique. Et à l'échelle de l'individu, comme de l'organisateur, comme du territoire.
C'est marrant parce qu'on est sur une thématique autour du trail, où là on est sur du sport, on va dire plutôt printemps, été, automne. Et on voit beaucoup les discussions en ce moment sur les stations de ski, sur le, ben on dit c'est la fin du ski. Y a, alors même s'il y a des. Est-ce qu'il va y avoir de la neige? Faut-il encore construire des remontées mécaniques? Je lisais un article hier sur les promoteurs d'un truc sur les glaciers qui disaient oui, mais non, on va amener des gens sur le glacier pour qu'ils soient sensibilisés au fait que le glacier fonde. Alors, je sais pas à quel point la réflexion est là-dedans, mais on se dit peut-être que d'un moment donné, le ski, parce qu'il y a plein de stations qui sont démantelées, je sais plus, je crois que c'est, j'allais dire 400 en France, qui ont été démantelées en 30 ans. Moi, je sais qu'en Auvergne, déjà, il y en a au moins une dans laquelle j'allais quand j'étais gamin, qui a été démantelée il y a au moins, peut-être 15, 20 ans, celle du Chambon, pour ceux qui connaissent, hein, il y avait une station de ski avec quelques remontées mécaniques qui n'existent plus du tout. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va disparaître, mais j'ai envie de dire, et c'est peut-être les conséquences du réchauffement qui fait qu'on n'a plus accès pendant longtemps, etc. On aura moins de neige, mais finalement, sur les territoires, on va dire, au lieu que ça les préserve du ski pendant certaines périodes, et bien sur les périodes autres, on va y remettre d'autres tensions, j'ai envie de dire, un autre stress. Toi, tout à l'heure, quand tu donnais l'image, moi, je me suis dit, on est en train de stresser le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on leur amène trop.
Oui.
Alors, si on passe à 3. Ils s'en foutent. Si on passe à 300, putain, attends, ils nous font chier les humains, quoi. Enfin, je le dis comme ça, mais si j'étais une plante,
Oui.
je penserais sincèrement, tu vois.
Non, mais c'est vrai. Et surtout que, bah, en fait, le ski, il y a beaucoup plus d'études qui sont faites sur les impacts et sur l'adaptation au changement climatique. Parce que on peut pas, enfin, quand on parle de développement durable, alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Moi, j'ai mes avis là-dessus. Mais normalement, il y a trois piliers. Il y a le pilier social, il y a le pilier économique et il y a le pilier écologique. Et il faut prendre en compte que dans les stations comme ça, bah, il y a des gens qui vivent de ça. Et on peut pas juste leur dire, on ferme la station et on vous laisse sans rien comme ça, on laisse mourir un territoire. Parce que j'ai des exemples, notamment, par exemple, Saint-Pierre de Chartreuse. Donc c'est là où est le fief de Red Light, à côté de Grenoble. On est face à une ville qui, donc c'est pas très, enfin c'est un village qui est pas très haut et qui voit son enneigement baisser, qui est en train petit à petit de mourir. Et il y a des gens qui habitent là depuis longtemps. Donc on ne peut pas juste leur dire, ah ben non, on va laisser mourir, on ne va rien faire. Et il y a de plus en plus de projets qui sont réfléchis sur comment faire en sorte que les stations soient aussi rentables l'été. Donc il y a des questions financières, effectivement. Et là, ce qui va se développer, il y en a beaucoup qui vont axer ça sur le VTT et le trail, le développement de stations de trail. Donc effectivement, on est sur des endroits où en fait la période de l'année où il va y avoir ce type de perturbation va augmenter, mais en même temps on va retirer la perturbation du ski. Donc au final, est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne sais pas. Mais il y aura une perturbation. De toute manière, il y a déjà une perturbation toute l'année et ça va continuer. C'est juste le type de perturbation qui va changer. Mais c'est bien pour ça qu'on est dans un contexte de monde qui change très très vite, à la fois au niveau humain, au niveau environnemental, au niveau climatique. Et on est là en train de vouloir mettre des nouvelles choses sur des choses qui en fait sont instables. Donc je pense que il faut pas juste foncer tête baissée en disant on fait ça, on regarde que l'aspect économique, on regarde que ça. Je pense qu'il faut vraiment que la recherche et les aspects développementaux avancent ensemble de façon à ce que on peut mettre un truc en place. C'est pas grave de se planter, c'est pas grave de faire quelque chose qui va oui abîmer un moment. Mais par contre, c'est dès qu'on voit que ça a abîmé, mais c'est de savoir faire marche arrière et de dire bah ouais, on va peut-être réfléchir. Et il peut y avoir des trucs qui vont être tout bêtes à faire. Je veux dire. Quand on pense, bah, je prends beaucoup l'exemple de La Réunion, tout simplement, parce que bah, je l'ai pas mal étudié et que je suis dessus, mais dire les problèmes, ils sont valables partout, hein, c'est pas que là, c'est que, bah, typiquement, pour le Zambrocal, alors, je sais pas si c'est toujours le cas cette année, mais ils empruntent un tronçon qui est extrêmement fragile. Je trouve pas que ce soit très judicieux. Voilà. Mais le parc, en fait, a limité, a dit non, là c'est 200 coureurs par jour, pas plus. C'est pour ça que le quota du Zambrocal, il ne peut pas augmenter. Parce qu'il y a un tronçon où c'est 200 coureurs maximum. Donc il y a des trucs comme ça qui sont tout bêtes. Ou alors il va y avoir, ça je trouve ça génial ce qu'ils ont fait là-dessus à La Réunion, et je me demande pourquoi on ne fait pas plus ça en France, mais sur les endroits où il y a des zones humides, parce que, enfin, pas forcément zones humides, mais ici il y a des endroits où il y a vraiment de la boue tout le temps, tout le temps. Et le souci, c'est que si on laisse de la boue, bah, les gens vont avoir tendance à contourner, donc plus ça va, plus le sentier il s'élargit, ça ravine encore plus, etc. Bah, là en fait, il y a des petits ponts en bois, et avec grillagé pour pas que ça glisse, et c'est ça partout. Et ça, c'est tout bête, mais c'est super pratique. Ou alors, c'est en Bretagne, où il y a souvent cette question, en fait, dans certains parcs américains, il y a la question de mettre des barrières le long des sentiers pour que les gens sortent pas. Et ça, c'est assez décrié. En France, on est un peu en mode, bah oui, mais ça fait prison. Mais moi, perso, je trouve, sur certains sentiers en Bretagne qui s'érodent, où il y a vraiment des problèmes, ils ont mis des tout petits poteaux, mais qui sont vraiment pas très très grands, avec des tout petits fils de fer entre. Donc, c'est juste à hauteur de cheville. Globalement, la personne qui a envie de passer au-dessus et de faire de la merde, elle peut le faire. Il y a personne, on l'empêche pas. Mais c'est dissuasif. Et au niveau esthétique, enfin, ça se remarque pas, quoi. Donc des fois, ça peut être des petits trucs comme ça, en fait. Il faut essayer de. Je pense que c'est pas. Il faut pas chercher à forcément à interdire, mais il faut jouer sur, bah, un peu comme du nudge, quoi, inciter les gens à changer leur comportement et surtout leur expliquer pourquoi. Parce que souvent, on va pas être. Si on nous impose quelque chose et qu'on ne nous explique pas pourquoi on nous l'impose, quelles sont les problématiques, si on ne vient pas expliquer, en fait, la première réaction, ça va être dire non, parce que là, vous me privez d'une liberté. Mais par contre, si on vient à comprendre, en fait, pourquoi il faut se comporter comme ça, pourquoi est-ce qu'en trail, il ne faut pas sentir des sentiers, pourquoi est-ce qu'il faut ramasser ses déchets, c'est pas pour embêter le monde, c'est si on explique, en fait, pourquoi, bah là, tout de suite, ça passe mieux. Et il y a quand même, on peut penser, c'est vrai qu'il y a une idée qui a une idée reçue qui est quand même que les trailers sont très sensibilisés. C'est faux. En fait, les trailers, ils sont pas du tout plus sensibles et ils connaissent pas l'environnement plus que les autres. Il y en a beaucoup qui pratiquent, bah, pour l'aspect environnemental. Mais si je demande combien s'arrête sur le bord du sentier pour observer une fleur, pour se demander, tiens, qu'est-ce que c'est que cette plante? Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Et qui vont se demander quel est l'impact de ma pratique pendant que je cours, qu'est-ce que ça peut générer. Il n'y en a pas énormément, alors que c'est des questions qu'on va se poser beaucoup plus quand on n'éteint pas la lumière, quand on mange de la viande. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont beaucoup plus rentrées dans les habitudes, en fait. Et là, juste se poser des questions, c'est pas de se dire il faut pas courir, mais c'est de comprendre que déjà on pratique un sport où on a besoin de l'environnement. Et il y a des études aussi qui ont montré qu'en fait, il y a une corrélation qui est fortement négative entre l'intensité d'utilisation et l'expérience utilisateur. Parce que l'intensité va causer des dégradations sur l'environnement. Et du coup, quand nous, on passe, bah, cette sensation qu'on peut avoir d'être dans un milieu qui est préservé, cette sensation qui nous fait du bien et pourquoi on est là, en fait, elle se perd. Donc, au-delà de dire il faut respecter l'environnement pour la planète, ça peut aussi, c'est aussi se dire très égoïstement, moi j'aime ce sport, j'ai envie de le pratiquer, il me procure du bien-être. Mais si je veux continuer à pouvoir le pratiquer, si je veux continuer à pouvoir retirer ce bien-être, à évoluer dans un environnement que j'aime, ben, il faut aussi que je le préserve. Et je suis tout autant responsable que les autres dans cette préservation, en fait. On peut le voir aussi comme ça, quoi.
Mais je pense que c'est une bonne manière de le voir. Et je pense que le trail, alors je sais pas si dans le trail ça existe ou pas, parce que je suis pas assez moi je suis pas trop dans ces trucs-là assez. Tu sais, l'autre jour j'ai vu les études de la Surfrider Foundation qui a mesuré les eaux de la Seine, donc il fallait même pas se baigner dedans, ce qui pose un problème pour les Jeux Olympiques. Mais ça, on voit quand même que les surfeurs, il y a un moment donné, il y a des surfeurs qui se sont dit, il faut qu'on protège les océans, qu'on mette il y a des gros moyens quand même. On parle de, c'est pas des petites associations dans leur coin et tout, c'est devenu des gros mastodontes qui vont faire de la prévention, qui vont expliquer. On le voit aussi au bord de la mer, parce que moi, tu donnais l'exemple de la mer, mais je sais que quand je vais en vacances à Agrissant, il y a des messages pour dire attention, ne ramassez pas les coquillages, parce que voici l'impact que ça. Il y a des panneaux partout qui ont été faits avec les gamins des écoles pour rappeler que bah, un coquillage qui est sur le sable, il a une vie, quoi. Il n'est pas là juste en décoration, il n'a pas été posé comme ça. C'est vrai que ça, en trail, moi, je ne sais pas. Alors, je pense que les organisateurs, toi qui fais partie de bénévoles et tout, tu dois le voir, essaye. en tout cas, ou vont, et vont essayer de faire de plus en plus, de, au moins d'essayer de sensibiliser un petit peu, parce que je pense qu'il y a aussi un impératif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au moins ils vont se dire, on va essayer au moins de le faire. Est-ce qu'ils le font assez ? Ça, c'est une autre question. Mais certains essayent de le faire. En tout cas, j'ai vu des ordinateurs qui essayent de le faire.
Alors ça, c'est vraiment très dépendant. C'est que moi, j'ai plutôt remarqué qu'il y avait cette sensibilité-là sur des petites courses.
Ouais.
En fait, des petits organisateurs qui étaient plus proches de leur territoire, en fait, qui étaient vraiment attachés au territoire, aux acteurs. J'ai beaucoup plus remarqué ça sur des bénévoles de petites courses, sur des grandes courses. Beaucoup plus de mal parce qu'il y a plus de moyens. Donc en fait, il va y avoir des choses qui vont être mises en œuvre et qui sont bien. Par exemple, moi, j'ai été ambassadeur et je continue de l'être, ambassadeur environnement à l'UTMB. Je l'ai fait 2 ans. Et ils ont des trucs qui sont vraiment intéressants. Ils ont des trucs qui valent le coup, mais c'est vrai que des fois, on a un peu l'impression que c'est mettre un pansement sur quelque chose, mais pas le soigner. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup plus... Après, on est d'accord, hein, sur un événement comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place des trucs à grande ampleur sur un tout petit événement. Là-dessus, oui. Mais je pense qu'il va... En fait, il y a progressivement une mouvance des organisateurs parce que s'ils veulent avoir les autorisations tout simplement pour faire leurs courses, ben, en fait, il y a des règles qui se durcissent au niveau des parcs. Mais ça dépend vraiment donc de la région, du territoire, de la politique du territoire, parce que les parcs nationaux, en fait, ils ont un pouvoir législatif. Donc, s'ils veulent émettre une loi en disant non, là, il n'y a pas plus de 200 personnes par jour, ils peuvent, ils ont le droit. Les parcs régionaux, c'est plus quelque chose qui est là en termes de développement de territoire et donc ils n'ont pas de pouvoir en fait législatif. C'est pas eux, ils vont pas émettre de décret. Ça va être pas des acteurs politiques au niveau, je sais pas si c'est la région, le département. Mais donc il y a quand même des disparités en fonction des acteurs du territoire. Il y en a certains qui vont être beaucoup plus stricts sur les autorisations et d'autres beaucoup plus souples. Et souvent, bah, en fait, c'est ça qui va contraindre les organisateurs à modifier. Et après, sur les questions d'engagement, oui, il y en a qui vont essayer, mais ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont assez frileux, parce qu'ils ont peur que, par exemple, en changeant par exemple, le ravitaillement, en mettant plus de coca, bah, ils perdent des gens. Ou un truc tout con, mais les t-shirts qu'on donne au départ, en fait, ils ont peur que si on arrête les goodies, les machins comme ça, les gens vont plus venir. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas tant qu'ils comprennent pas les enjeux, mais c'est qu'il y a une frilosité et une peur, mais tout simplement aussi parce que ils posent pas la question aux coureurs. J'ai l'impression qu'il y a assez peu d'événements qui font cette démarche-là de poser la question. Et si je prends par exemple les t-shirts, moi j'ai pu, je suis pas allée faire un sondage en mode avec des statistiques et tout, hein, mais j'ai pu discuter avec pas mal de coureurs et il y en a beaucoup qui seraient prêts à dire, bah, moi, je préfère avoir un t-shirt ou de meilleure qualité ou des produits issus d'artisans locaux, pouvoir choisir de l'avoir. Et en fait, si je ne l'ai pas, ben, je paye mon dossard moins cher, mais je n'ai pas envie de participer à ces coûts-là aussi. Hein. Ça peut être aussi un moyen, on crie beaucoup sur le prix des courses, mais de dire, bah oui, mais si tu n'as pas de t-shirt, bah, ta course, ça revient moins cher aussi. Et de privilégier des artisans locaux, des choses alimentaires, parce que je suis désolée, mais les t-shirts, on en a tous plein et les trois quarts, on veut l'avoir juste parce qu'on se dit je l'ai payé dans mon dossard, donc du coup je le veux, mais ils vont rester au placard pour beaucoup. Donc qu'on puisse avoir des sous qui nous tiennent à cœur sur les pages, on serait prêt à mettre 20, 25 euros, 30 euros pour quelque chose de meilleure qualité. Et ben, y a une course qui fait ça, c'est l'UTHC au Canada, Americana. Et eux, en fait, il n'y a aucun cadeau de... de départ. Je crois qu'il y a des cadeaux de finisher, mais le t-shirt, c'est en gros, mais c'est quelque chose qui a un impact qui est quand même assez conséquent, quoi.
Mais c'est vrai que cette histoire de t-shirt, et en plus, alors on a parlé quand on s'était eu avant, moi je disais, j'avais fait une course caritative, et dedans il donne un t-shirt qui est bourré de pub.
Ouais.
Je me dis, mais ce t-shirt, je sais pas combien il a coûté. Alors c'est sûr que je pense que les publicités, les marques sont contentes d'avoir un t-shirt avec leur nom dessus. et elles sont contentes. Mais moi, en tant que personne qui participe à la course, je me dis, mais les euros du t-shirt, pourquoi sont pas donnés à la cause directement que je viens soutenir? En l'occurrence, c'était contre le cancer. Là, tu vois, j'avais une question qui était un petit peu, pour moi, un petit peu compliquée. Et je me suis dit, si je prends pas le t-shirt, de toute façon, il va partir à la poubelle, ou au pire, ils vont pas le réutiliser l'an prochain, ça sera pas le même sponsor, pas la même couleur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce truc qui est en plus? Alors, j'ai vu des courses qui disent, oui, on limite le nombre de t-shirts, les inscriptions. Tu vois, j'ai vu un SMI de Vichy. Ils disent, voilà, il n'y en a que 2000 t-shirts maximum. Après, bah, écoutez, il n'y a plus de t-shirts, donc il y a plus de participants, mais il n'y a plus de t-shirts. Mythe, ça jette pas, tu vois, il y a moins de... Mais moi, je peux te dire, j'ai dû avoir 2 t-shirts du semi-marathon de Vichy, je les ai mis 2 fois, juste la semaine après pour dire je l'ai fait. Alors si j'en vois plein qui courent avec le marathon, et je critique pas, hein, tous ceux qui ont fait le marathon de Paris, qui se baladent avec le t-shirt de marathon de Paris, ça fait plaisir, ouais. Je le fais encore, 5 ans après, je le fais encore de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui ne s'en servent pas. D'ailleurs, il y a des associations qui les reprennent pour faire du recyclage, pour les redonner dans d'autres pays, etc. Donc, c'est bien qu'on est aussi dans un espèce de c'est une fast fashion du coureur, j'ai envie de dire. On a notre t-shirt, mais en plus, ils sont tous made in China. C'est pour ça que je parle de fast fashion, parce qu'ils sont made in China. On parlait tout à l'heure des fibres, la qualité des fibres qu'on trouve sur les terrains. Soyons honnêtes, ils sont pas de la bonne fibre. En plus, comme on les nous a donné, on y prend peut-être moins attention, on fait peut-être moins attention quand on les frotte contre un arbre ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs en fait qui jouent là-dedans. Et c'est vrai que ces histoires de t-shirts, on pourrait dire, bah finalement, si tu les veux, moi il y a une course où c'était un beau t-shirt en coton, tu sais, bonne qualité, qui 5 ans après, il est toujours, enfin même 6 ans après, tu vois, toujours là. Je suis assez content, tu vois. Et à la limite, je me dis, bah ils auraient pu, dans ce cas-là, oui, ils le vendent. Ou alors. Sur le Gravelman, par exemple, à la fin, si tu achètes un t-shirt, t'achètes un t-shirt. Mais Gravelman, c'est un peu spécial aussi. On est sur du vélo. J'ai pas mesuré combien j'ai laissé de gomme de pneus sur les chemins, tu vois. Par contre, c'est l'inverse.
Mais ouais, mais puis tu. Enfin, moi, j'ai fait des courses où en fait, ce qu'ils offraient. Alors déjà, bon, si on part du principe qu'on veut à tout prix un cadeau, quoi. Enfin, je veux dire, la course, si t'as envie de faire la course juste pour le cadeau, va au magasin, tu te l'achètes le cadeau. Enfin. Voilà, mais il faut se poser la question aussi, pourquoi est-ce qu'on tient tellement à avoir notre cadeau pendant la course? Je veux dire, on ne le fait pas pour le cadeau, enfin, peut-être certains, mais ça fait un peu cher le cadeau, quoi. Mais j'ai eu des courses où il y en avait une, c'était le trail de la Michaille, c'est dans l'Ain, c'est à côté, c'est pas très très loin de Genève. Et là, ils nous avaient offert en cadeau d'arrivée, on avait en fait des cadeaux qui venaient de leur stock partenaire, donc c'était des partenaires alimentaires. Et on avait je crois que c'était du bleu d'Auvergne. Non, pas du bleu d'Auvergne, mais en gros, c'était un fromage local qu'ils avaient qui ressemblait à du bleu. Et on avait un gros morceau de fromage comme ça. Quand j'avais fait le trail des passerelles de Monténard, en cadeau d'arrivée, voilà, là, ils avaient d'autres trucs, parce que j'avais une banane. Enfin, ils cherchaient à changer, mais bon, ça revient au même. En fait, on n'est pas en avoir. Mais à l'arrivée, bon, ils donnaient une grande bouteille de bière qui était faite par Crétin des Alpes, qui est une marque, je ne sais pas si c'est produit localement, mais c'est une marque locale. Et c'était vachement appréciable, quoi, d'avoir ces produits-là. Et je pense que ce serait intéressant pour les organisateurs. De poser la question en fait aux pratiquants, comment est-ce qu'ils perçoivent l'événement, comment est-ce qu'ils perçoivent les cadeaux donnés à l'événement, est-ce qu'ils ont besoin d'un cadeau ou est-ce qu'ils préféraient avoir un coût moindre à l'événement, et quel type de cadeau ils voudraient, est-ce qu'ils préfèrent des artisans locaux, des choses qui vont faire découvrir. Ça pourrait être, je sais pas, un ticket pour aller manger dans un restaurant à côté, ça pourrait être des partenariats comme ça, alors je sais pas comment ça se passe au niveau des finances, mais ça peut mettre en valeur des acteurs du territoire, et donc ça peut être aussi profitable aux personnes-là pour devenir partenaire de l'événement. Je pense qu'il faut... il y a ce truc de t-shirt qui est la traduction, la médaille, le machin, mais au final, est-ce que il y a quelques courses, par exemple, moi je vais faire le 80 km là de la VVX, bah oui, je sais que j'ai envie d'avoir mon t-shirt parce que c'est symbolique pour moi, parce que ça représente quelque chose. Je veux dire, là, il y a 2 semaines, j'ai fait un trail. Je l'ai juste fait parce que j'étais en mode, bah, le dimanche, j'ai pas envie de faire ma sortie seule comme ça, puis ça faisait un bon entraînement. Mais c'est pas un truc qui me tenait à cœur. Donc, en fait, le t-shirt en soi, je dis pas que j'ai pas aimé l'événement, mais c'est pas, pour moi, c'est pas symbolique aussi fort que de certaines courses. Et je veux dire, il y a des fois des courses, on les fait pour l'ambiance, pour la petite course. Et il y en a d'autres où c'est tellement un symbole qu'on veut ça. Et c'est pas pour dénigrer celle qu'on fait en petite course, parce qu'on peut prendre un plaisir fou. On peut prendre vraiment plaisir sur la course. Donc c'est pas l'idée de dire ta course, elle vaut rien si je veux pas de cadeau. C'est juste de dire, moi là, j'y vais pour m'amuser. J'y vais pour ça. Et cette course, pour certains, elle sera un symbole. Et pour d'autres, ce sera juste, bah, j'ai envie de prendre plaisir. Et déjà, rien que le fait de venir sur ton événement, de payer pour ton événement, ça veut dire que tu as envie de faire la course, en fait. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est un axe qui est intéressant. Et de sortir de cette peur de perdre des clients. Parce que c'est ça qui empêche. Et je pense que le jour où il y aura un événement qui véritablement. Il y en a qui le font, hein, des petits événements. Là, je parle plutôt le jour où il y aura un gros événement qui se positionnera en disant. Ok, moi j'ai pris ce parti-là. Par exemple, à mes ravitaillements, je propose du végétarien, je propose du local, vous n'aurez pas de coca, je ne vais pas proposer de goodies, ou alors vous aurez des trucs de bonne qualité, et puis vous venez avec vos gobelets, il n'y en aura pas d'autres. Enfin, le jour où il y en aura un qui prendra des mesures fortes en les expliquant, et en expliquant bah, l'intérêt de les prendre et pour la pérennité de l'événement, je pense que ça enverra un message fort. Parce que là, les coureurs, ils viennent parce qu'ils savent que la course, elle est authentique, qu'il y a des tous les 50 mètres, mais il y en a tous les 200 mètres, voilà, que c'est ponctuel. Il y a des courses qui font ça, mais le jour où un grand organisateur osera dire ça et osera dire, bah, nous, on fait, ça peut être, nous, on fait une expérience cette année. Cette année, on veut tester, on veut avoir beau retour, on essaie de faire un événement vraiment durable. On va le tester sur un an. Puis donnez-nous vos retours et après, on ajuste. Ah, ça, je pense que ce serait hyper intéressant, quoi. Et il y a des solutions parce qu'on s'imagine, il y a des trucs qui sont très coûteux, qui peuvent être hyper difficiles à mettre en place. Il y a des trucs, c'est vraiment basique, quoi. Et je pense que c'est à la portée de tous les organisateurs, mais ça demande aussi effectivement aux coureurs bah, de se poser des questions, de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour aller sur une course? Enfin, ouais, vraiment de repenser sa façon de faire du sport. Pas par obligation, mais juste se dire si je veux, comme je disais tout à l'heure, si je veux préserver ma possibilité de faire ce sport, il faut que je préserve l'environnement. On peut être très sensible à l'environnement, et moi, c'est le cas, c'est qu'en fait, maintenant, quand je suis dehors, en fait, comme je le comprends, je trouve ça, en fait, je trouve ça juste magique, je trouve ça beau, je suis là, j'ai envie de tout faire pour qu'ils se sentent bien, au même titre que je prendrais soin de ma famille ou des choses comme ça, donc c'est pas une question de. Je le protège parce qu'on doit. C'est comme ça. Non, c'est juste, je fais attention, je respecte parce que ça fait partie, en fait, ça fait partie de moi quelque part aussi. Je veux dire, je le ressens, je ressens des émotions quand je vois un arbre qui va pas bien ou, voilà, alors on peut dire que je suis hypersensible, hein, mais ouais, je ressens des émotions, donc ça coule de source. Mais je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde. Et juste, bah, déjà, se dire, OK, si je veux continuer à pratiquer, ah, en fait, si je veux pratiquer longtemps, faut que je préserve mon environnement. Parce que ça, c'est quelque chose que je pense que les gens commencent à comprendre sur l'aspect santé. C'est que si on veut pratiquer longtemps, bah, faut se préserver au niveau de la santé. Sauf que la santé, il y a la santé physique, la santé de l'individu, mais la santé de l'environnement, elle existe aussi. Et on le voit. Moi, j'ai eu un truc qui m'a énormément marqué. C'était, je crois que c'était en 2021, 2022, je ne sais plus. C'est le moment où il y a eu les gros feux en Gironde, à côté de la dune du Pilat. Et en fait, à ce moment-là, j'étais rentrée chez moi l'été, et il y a une piste cyclable qui est dans les forêts de pins, et j'avais l'habitude, j'aimais bien la prendre, faire un aller-retour et tout, ça faisait 70 km aller-retour et tout. Et je commence à la prendre et je vois une barrière qui dit bah, que la piste cyclable était fermée dans la matinée. Enfin, était, non, fermée à partir de 13 h. Donc je me dis, bon, je le fais le matin. Je le fais et 2 jours plus tard, je crois, je reprends mon vélo pour y aller. Là, je passe, même barrière. Et là, je me fais arrêter par la mère la mère dans la mairie. Dans des villages et qui me dit, ah non, non, mais là, c'est interdit. Il faut que vous sortiez, vous finissez sur la route, mais là, il n'y a plus le droit d'être dans la forêt. Et moi, je l'ai regardé avec des yeux, je lui ai dit, bah, enfin, pourquoi? Je comprends que ça cause des feux, hein, du risque de feu. Et elle me dit, non, en fait, nous, on n'a pas peur que ce soit un cycliste qui mette le feu. C'est pas ça la question, mais c'est que s'il y a un feu qui se déclenche, on ne sait pas s'il y a des gens dedans. Et on ne veut pas qu'il y ait des gens dedans. Et donc, en fait, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, en fait, là, par nos conneries, on est en train de perdre l'accès à la nature et à ce qui nous fait plaisir. Donc, à un moment, ben, je suis désolée, mais si tu veux continuer à aller dans la nature, il va falloir la préserver, même si tu n'as pas envie. Même si tu n'as pas envie de faire d'efforts, en fait, tu peux pas juste dire je vais dans la nature, je m'en fous, je pense pas aux conséquences de mes actes et je veux continuer à y aller. Parce que à un moment, c'est pas toi, c'est pas ton corps qui va te dire stop. C'est juste que dehors, bah, il va y avoir trop de dégradation. On va interdire. Tu n'auras plus aucun plaisir parce que ce sera que des zones envahies, parce que les sentiers seront larges. En fait, il va y avoir des conséquences de ces actes. Et si on veut pouvoir continuer d'en profiter, et là, je prends un point de vue qui est purement anthropocentré, égoïste au niveau de l'humain, hein, mais si on veut continuer d'y aller et on sait que la nature, elle est nécessaire pour la santé mentale et la santé physique, en fait, je suis désolée, mais il va falloir faire un effort. Et au début, ça va paraître un effort. Au début, ça paraît compliqué de changer ses habitudes. C'est vrai que bah, diminuer sa consommation de viande, repenser la manière dont on consomme la nature, se dire bah, je vais peut-être aller moins souvent en forêt ou moins souvent faire de la course, mais je vais mieux le réfléchir. Ou je vais y aller de manière plus douce. Je vais pas faire de ressortie. Enfin, au début, oui, ça va demander un ajustement parce qu'on a pris des habitudes. Mais ça va être au début. Après, ça devient, j'ai envie de dire, après, ça devient une nouvelle habitude. Et plus on se renseigne, plus on comprend, et moins ça devient difficile de faire les efforts. Et c'est même plus des efforts. Enfin, ça devient plus des efforts. Donc, faut pas avoir peur de ce début. Faut pas se dire qu'on va perdre en liberté, en fait. On va pas perdre en liberté. On va faire différemment, mais pour permettre de préserver justement notre liberté d'aller dehors sur un temps qui est plus long. Donc, faut pas voir que sur le temps court à l'horizon de bah là je peux pas faire ma course ou tout ça, bah oui, peut-être que cette année tu peux pas faire ta course, mais si tu veux pouvoir faire une course dans 10 ans, bah c'est comme ça. Et je veux dire, la vision de l'entraînement quand on veut se préparer, à part quelques ovnis, on se dit pas bah tiens, là je viens de commencer à courir au début de l'année, et puis je vais à tout prix faire l'UTMB là, parce que sinon tu peux le faire, mais ça se trouve tu vas te péter un truc et puis tu pourras plus jamais courir, quoi.
Mais ça pose plein de questions parce que c'est vrai qu'après, bon, il y a le concept de One Health, donc une seule santé qui se répand. On en a parlé dans le podcast en plus avec Anthony Berthoud sur la notion que ben, moi, tu sais, c'est aussi le concept avec le vieillard galopant. À quoi bon être un vieillard galopant si c'est pour courir dans un parc à côté de la maison parce que j'ai pas le droit d'aller sur le chemin? Je vois pas trop l'intérêt. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, ça va pas être amusant et je le vois déjà, tu vois, je parlais de Grussan, des vacances. Il y a une montagne, il y a le massif de la Clap. L'été, on ne peut pas y aller, donc il y a plein de raisons à cause des feux et tout. Mais je pense que ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas mis les pieds, alors qu'il y a une magnifique petite une petite cascade, et tu vois, bon, okay, l'été est sèche et tout, mais il y a des magnifiques chemins, tu vois, c'est des jolis terrains de trail, etc. Tu vois, il y a des jolis trucs, il y a des courses qui sont faites. Mais c'est vrai qu'on commence à voir que tu n'as plus accès, que tu te dis, bah non, là c'est coupé. Donc il y a plein d'éléments où on voit quand même qu'on commence à avoir des limitations. On pourrait parler aussi, ceux qui sont vers Marseille, ils vont penser aux Calanques. Il y a plein de zones où on commence à voir que on est obligé de limiter, d'avoir des zones de limite. Moi je me rappelle aussi quand je faisais du vélo, là, quand j'ai descendu le long de la côte, l'océan sur la côte atlantique. Il y a plein d'endroits où on dit attention, là il y a des dunes, vous n'avez pas le droit d'y aller, vous n'avez plus le droit d'y avoir. Il y avait des petits passages exprès pour y aller. Donc je pense que petit à petit, on va avoir cette notion-là qui va rentrer. Mais c'est vrai que ben, moi, la campagne, la nature et tout, tu dis oh, je peux aller partout. Je reparle, tu parlais des VVX, on parle des volcans. Si vous prenez une bouteille de Volvic, vous regardez le volcan qui est dessus qui s'appelle le Paryou. Ben, à un moment donné, la question était de savoir qu'on n'aurait plus le droit d'y monter dessus. Donc, ils ont fait un petit chemin avec les fameux trucs que tu disais là, d'abord des fils et puis ensuite des escaliers, du bois, etc. pour préserver, pour dire ben, si, si, vous pouvez continuer à monter, mais avec ces conditions-là. Et puis, on peut même plus descendre dans le cratère. Enfin, voilà. Bref, comme quoi, on le voit.
Après, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'on a eu une grosse explosion des sentiers, et de dire bah maintenant, ouais, on va peut-être en fermer certains. C'est pas idiot. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiers de quoi faire, et il faut pas se focaliser sur ceux qui sont fermés, mais il faut se focaliser sur tous ceux qui sont ouverts. On a quand même la chance d'en avoir énormément, et c'est pas anodin, hein. Les sentiers, ça fait de la fragmentation du territoire, c'est vraiment problématique. Donc, fermer certains sentiers, je pense que c'est nécessaire. Surtout que maintenant, avec les cartes, on peut regarder par exemple les Strava Heatmap, on voit qu'il y a certains sentiers qui sont presque pas empruntés. Et j'ai envie de dire, ben oui, peut-être que toi tu l'empruntes une fois et tout, mais on va pas faire une exception juste pour toi si ça met en danger beaucoup plus, quoi. Donc de se dire, on va. Après, j'ai pas là-dessus, je crois qu'il n'y a pas encore de consensus sur la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux quelques sentiers avec beaucoup de concentration de personnes ou beaucoup de sentiers avec moins de concentration. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux moins de sentiers parce que tu as moins de fragmentation du territoire et du coup, plutôt avoir des sentiers qui sont certes peut-être plus larges mais mieux aménagés pour un passage. Ça, c'est mon opinion de ce que j'ai pu voir sur les espèces invasives, etc. Maintenant, j'ai pas de données pour appuyer ça. Il y a peut-être des articles, mais j'en ai pas vu pour le moment. C'est une question. Je pense qu'il y a, il y a, ça peut faire débat là-dessus. Je pense que ça dépend ce qu'on regarde aussi en termes d'environnement. Mais ce qui est sûr, c'est que plus il y a de sentiers, plus il y a d'impact en termes de. Bon, ouais, je vais me perdre un peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Je sais pas encore si je vais faire une thèse, mais c'est vrai que la question des impacts de l'infrastructure sentier, donc vraiment l'infrastructure, et des impacts de l'usage. À ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas d'études qui font la part au sein d'une même étude entre d'un coup, bah oui, il y a ces impacts liés à l'usage, et il y a ces impacts liés à l'infrastructure. Et je pense que ce serait une évolution hyper intéressante pour pouvoir mieux apprendre à justement à gérer la présence dans la nature. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de mettre sous cloche. Je veux dire, l'être humain fait partie de la nature. Donc, ça, faut pas non plus chercher à couper, en fait, notre accès. C'est pas bon à la fois pour la santé humaine, mais c'est pas bon pour notre rapport à l'environnement non plus. Faut qu'on puisse aller dedans pour le comprendre. Enfin, je sais pas, on en fait partie, quoi. Donc, c'est normal aussi qu'on puisse y aller. Mais voilà, ça, c'est des questions. Et en termes de limitation, bah oui, on va en avoir parce que bah, on se rend compte qu'il y a des sentiers qui passent dans des endroits qui sont très sensibles, ou alors que les gens, ils ont pas, qu'en fait, il y a un manque de respect et qui fait que c'est peut-être le manque de respect de quelques-uns, mais qui a des impacts trop importants, donc on stoppe. Et c'est aussi pour ça que on est tous responsables des limitations. C'est parce que il y a quelques personnes qui peuvent avoir un comportement, mais l'impact est tellement important. Que voilà, enfin par exemple, la question du hors sentier, ça c'est un truc qui me fait bondir. Je préviens, s'il y a des coureurs qui font des trailers qui font du hors sentier, ça me met hors de moi. Voilà. Parce que ça a des conséquences qui sont bien plus importantes que celles des sentiers classiques. Et il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée, donc c'est aux États-Unis, dans des prairies. À ma connaissance, il n'y en a pas encore dans d'autres écosystèmes. Donc là, ils l'ont fait dans des prairies pour voir au bout de combien de passages un sentier se crée.
Ouais.
Le nombre, c'est 200. C'est
D'accord,
ridicule.
ouais.
Au bout de 200 passages, il y a un sentier qui se crée. Et ce qu'ils mettent bien en avant, c'est que pour créer un sentier informel, ce qu'on appelle aussi social trails, ça peut s'appeler comme ça dans certaines. On peut voir ça dans certains articles. C'est que, donc, il faut un passage pionnier, c'est-à-dire une personne qui va passer. Qui va commencer à passer et qui va commencer à coucher en fait la végétation. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des passages subséquents. Donc là, c'est des gens qui vont en fait arriver et on va voir que la végétation est un peu couchée. Et là, d'un point de vue psychologique, on va avoir plus tendance à y aller. C'est même instinctivement, en fait, on va dire, tiens, je vais passer par là. Donc la personne passe. Puis il y en a une autre, et au bout d'un moment, hop, ça y est, le sentier, il est créé. Et donc là, on voit bien que même une personne, elle a un impact. Parce que juste si elle couche la végétation, après qu'il y en a une autre qui arrive qui dit, ah tiens, pourquoi là c'est couché? Ça se trouve, il y a un truc sympa à aller voir. Il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Et ça s'accumule. Donc oui, non, l'impact d'une personne, il existe aussi. Parce qu'il va avoir. Alors, il va avoir un impact sur la psychologie des gens qui vont passer derrière. Et qui vont du coup pas être plus incités à y aller. Et voilà, ils ont 200 passages. Enfin, 200 passages, c'est rien, quoi. Quand on y réfléchit, c'est pas grand-chose. Hein.
Ouais. Mais là, tu vois, et quelqu'un va dire, mais ça pose quel problème qu'il y a un nouveau sentier qui se crée là, tu vois, au milieu de la prairie, là, comme ça, là. Parce que si ça coupe.
Et bah, ça va poser problème parce que quand on crée des sentiers formels, donc ils sont prévus par des autorités, et il y a eu des études d'impact. Comme quand on construit un centre commercial, des choses comme ça, on est censé avoir une étude d'impact pour comprendre quels sont les meilleurs endroits où aller. Donc, les sentiers formels, ils vont traverser des endroits où on sait que l'impact va être minimisé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, mais c'est des endroits où l'impact va être minimisé, où on sait que peut-être il y a pas, c'est pas sur des corridors qu'empruntent, j'en sais rien, des grenouilles, des lapins, que c'est un endroit où il y a moins d'espèces à risque. On va pas passer au milieu d'une population de, je sais pas, de bois noirs qui sont en train d'être menacés à La Réunion, on va pas passer au milieu. C'est des endroits aussi où le terrain est stable, notamment en montagne, c'est quand même important. Donc, je veux dire, c'est réfléchi. La trame est réfléchie pour minimiser les impacts, que ce soit les impacts en termes de sécurité, les impacts environnementaux, etc. Et quand une personne va faire du hors-sentier, en fait, ça va pas être du tout réfléchi. Donc déjà, on va avoir des trouées que les gestionnaires, en fait, ils vont pas, ils connaissent pas. Il va y avoir des endroits où il y a des sentiers, ils le savent pas. Et ces sentiers-là, ils vont potentiellement aller dans des zones où il y a des espèces qui sont très fragiles, qui sont très sensibles, et où toi, ton impact, quand tu passes en tant qu'une personne, peut avoir des répercussions en effet boule de neige qui sont énormes. Donc, il va y avoir ce problème-là, qui va Ça va être des trames qui vont pas être répertoriées, qui vont venir faire des trouées dans des, bah, dans des corridors écologiques, dans des zones d'habitation d'espèces. Et puis, bah, ça va créer des zones de sol nu. Donc, ça va accentuer l'érosion. En termes de risques naturels, ça va être problématique. Parce que souvent, ces sentiers-là, en plus, il y en a qui vont avoir tendance à emprunter des pentes très raides. Or, c'est sur les pentes les plus raides qu'on a le plus de d'érosion. Donc, ça peut créer des problèmes d'érosion, donc la qualité des sols, comme je l'ai dit. Puis, ça crée des problèmes aussi de sécurité. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui sortent de sentiers, qui vont dans des endroits qui sont potentiellement dangereux. Donc, c'est pas parce que, et moi, je le vois beaucoup à La Réunion, hein, c'est pas parce que le sol, il t'apparaît dur que tu peux pas avoir un décrochement de terrain d'un coup, quoi. Donc, on va dans des zones où, déjà, les gens, on sait pas qu'ils sont là. S'il leur arrive un truc, l'hélico, ils le trouvent comment, quoi? Et ça a des impacts aussi sur la dégradation du paysage, sur l'esthétique. Je veux dire, on voit voir un endroit où il y a des sentiers partout qui vont dans tous les sens. C'est pas ouf, quoi. Enfin...
Voilà. Non, mais c'était important de le rappeler quand même sur cette histoire-là, parce que c'est vrai qu'on se dit finalement le sentier, qui a créé le sentier, qui a créé le chemin, pourquoi il est là, comment il est là, et comment ils apparaissent. Parce que moi, alors tu vois, moi j'ai de la famille dans les Cévennes, où, là, tu parlais de trucs escarpés, et là je l'ai vu, hein, alors après me dire oui, mais les chèvres qui passent, mais oui, elles passent et tout. Mais justement, les agriculteurs, ils savent qu'il faut refaire les murs après, chaque année ils refont les murs, ils reconstruisent sur les passages, sur les fameux sentiers. On sait quand il se met à pleuvoir, ben, ça dégringole plein partout et que ça pose des gros problèmes en dessous sur les sources. Enfin, on le sait, ces histoires-là, on le voit, on le sait. Donc c'est pas anodin de passer à peu près, on peut pas passer n'importe où et que c'est pas si anodin que ça. Il y avait une question, tu vois, qui en t'écoutant, je me disais, est-ce qu'on pourrait imaginer, tu vois, sur certaines courses, sur certains endroits, se dire que finalement, il y a des courses de pourraient passer sur un chemin qu'une année sur deux ou sur trois, tu vois, une sorte de jachère un peu, tu vois, de dire. Bah lui, on va laisser se reposer pendant 1 an ou 2 ans. Chaque année, on change les parcours. On a deux, trois variantes pour essayer de laisser le temps en fait à la nature de reprendre, retrouver ses esprits.
Ben ça, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Après, j'ai pas de, là non plus, j'ai pas forcément de données. Mais par exemple, sur les plans de PDIPR, plan départemental des itinéraires de randonnée, je crois que c'est ça. En fait, donc, il y a un réseau de sentiers qui est connu. Il y a une carte avec un réseau de sentiers connus. Et il y a les sentiers connus et les sentiers ouverts. Et donc, enfin, quand je dis ouvert, c'est les sentiers qui vont être entretenus. Et ça, quand le PDIPR, il est refait, alors je sais que c'est le cas en Isère, parce qu'on avait eu un cours là-dessus. Je peux pas, je sais pas exactement si c'est partout pareil, mais en tout cas, en Isère, ce qu'ils font, c'est que quand ils refont les PDIPR, bah, il y a des endroits, ils vont dire, bah, ce sentier-là, on va pas le, cette année-là, on va pas le remettre dans le plan. Par contre, on va remettre celui-là. Donc, celui qui est plus, bah, ils vont le laisser, ils vont plus l'entretenir. Celui qu'ils vont remettre, ils vont à nouveau le réentretenir. Et du coup, tu as des rotations comme ça. Et bah, ça, encore une fois, comme je dis, c'est des trucs qui sont très peu étudiés. Donc, savoir quel est vraiment le niveau d'efficacité, je sais pas. C'est vrai que je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de, bah, de régénérer petit à petit, d'avoir des perturbations, enfin, de ralentir la fréquence des perturbations. Donc, peut-être à certaines espèces de revenir. Et puis, on peut imaginer que si un endroit, on voit qu'au bout de 3 ans, bah, en fait, c'est un endroit qui est favorable pour telle ou telle espèce qui peut être menacée, se dire, bah non, lui, on va pas le réouvrir. Je pense que ça permet aussi de voir ça. Mais il y aurait beaucoup de recherches à faire sur les différentes stratégies à avoir. Je pense que Mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée de ne pas toujours passer par les mêmes sentiers. Maintenant, en ce qui concerne les événements, il faut veiller quand même à passer sur des sentiers qui sont adaptés au nombre de coureurs. C'est-à-dire que les singles où tu as 600 personnes qui passent, peut-être pas une bonne idée. Voilà. Ce que j'avais, moi, typiquement, ce que j'avais apprécié à la VVX l'an dernier, j'ai déjà fait le 80, c'est que tu as quand même une grosse partie qui est sur des chemins, mais vraiment des gros chemins, quoi. Donc, c'est des endroits où il y a des poids lourds qui vont, enfin des camions qui vont passer. Donc, c'est vrai que là, bah, l'impact de 1000 coureurs, il va être moindre que dans le petit sentier où tout le monde s'embouteille. Donc, je pense que il faut. C'est vrai que ça peut être intéressant de varier les sentiers. Ça peut être intéressant pour des petites courses qui, justement, ont peu de participants et empruntent des petits singles. Mais pour des courses plus grosses qui ont besoin de plus de sentiers et plus de place. Je ne sais pas si c'est faisable ou s'il faudrait revoir complètement l'itinéraire. Après, ça peut être intéressant de se dire, ben, on ne fait pas des courses qui ont tout le temps le même parcours. Mais bon, je pense que niveau organisation, par contre, là, ça peut être, pour obtenir les autorisations, ça peut être quelque chose de compliqué, à moins de se mettre en accord avec le territoire, parce que sur les courses, il y a quand même beaucoup de terrains qui sont privés, des choses comme ça. Donc, ouais, ça pourrait être une idée qui est intéressante. Après, au niveau de la faisabilité.
Non mais on voit que ça pose beaucoup de questions parce qu'on sait aussi que quand tu traverses une forêt, l'ONF, quand tu es gestionnaire, va dire ce chemin-là vous pouvez le prendre, celui-là vous pouvez pas le prendre, qu'il y a quand même vraiment, et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que les organisateurs doivent faire, parce qu'il y a les autorisations, les passages, les endroits, les négociations, tu l'as dit avec les propriétaires des terrains, avec l'ONF, avec les fédérations de chasseurs par endroit, enfin, et des propriétaires des forêts, enfin, c'est compliqué en
C'est
fait le
un peu.
maillage, on s'en rend pas compte, hein.
Bah ouais, après, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai envie de dire, les grosses courses qui ramènent beaucoup d'argent au territoire et tout ça, quelque part, je pense qu'elles ont moins ces problèmes-là parce que c'est tellement bénéfique pour le territoire que quelque part, elles font un peu ce qu'elles veulent. Parce que si elles n'étaient pas là, ça poserait des problèmes économiques. Par contre, je pense que c'est pour les plus petites courses qui, eux, ont beaucoup plus de difficultés parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir de dialogue, ils n'ont pas. Quelque part, je pense que des fois, une petite course, ça peut juste être perçu comme ok, oui, c'est un truc qui vient nous faire chier quelque là, et voilà. Alors qu'une grosse course, quand on parle de l'UTMB, de la Diagonale des Fous, ce genre de choses, bah, c'est quelque chose qui a des retombées économiques au niveau national et régional, national, international, qui a un rayonnement pour des marques, des choses comme ça. Donc, au niveau décisionnaire, ils ont beaucoup plus de voix, de portée.
Ouais. Et c'est dur hein, pour les organisateurs de courses parce qu'en plus j'en suis des fois sur les réseaux, certains qui se retrouvent à se faire débaliser les chemins juste 1 heure avant le passage des coureurs. J'ai vu un trail qui est en
Oui, je
Auvergne
connais.
sur lequel ils ont mis des caméras pour surveiller qui venait, que les vols de panneaux avant les courses et tout, et parce qu'ils en
Ah,
avaient d'année
mais.
en année, parce que c'était et on leur piquait, donc ils avaient les preuves qu'il y a des gens qui venaient débaliser, qui venaient piquer le panneau, etc. quoi.
Mais dis-toi que ça, je pensais pas, mais ça peut être un frein chez certains organisateurs à utiliser des choses plus respectueuses de l'environnement, faut aussi le dire, parce que. Moi j'ai été bénévole donc pour l'Oisans Trail Tour, la Wider Race du côté de Grenoble, etc. Et là, il y a une utilisation qui est de. En fait, on n'utilise pas de rubalise, on utilise des petits fanions avec un piquet métallique. Puis il y a le petit fanion haut. Et en fait, on a tout ça et ça s'est partagé entre plusieurs événements. C'est-à-dire que comme on n'a pas tout. Enfin, tous les événements ne font pas le même jour, bah, un samedi c'est toi, le samedi suivant c'est toi, etc. Et donc, ils sont plantés. Et c'est vrai que sur ces événements, on a eu du débalisage. Je me souviens, une fois, il y en avait un, le pauvre, il s'était fait débaliser sur 5 km. Moi, sur 500 mètres, mais 5 km, ça fait mal. Moi, c'était sur 500 mètres, mais tu vois, j'ai jamais retrouvé les drapeaux. Je les ai pas retrouvés. Lui, il les avait retrouvés. Moi, je les avais pas retrouvés. Et donc là, ben oui, il faut rebaliser. Mais là, j'ai été bénévole, donc sur un trail à La Réunion, dans ma fac. Et les trails à La Réunion, c'est que des rubalises. Enfin, franchement, c'est que de la rubalise jetable. J'ai dit, mais pourquoi vous mettez pas des piquets? Et là, c'était bah, parce qu'on se fait débaliser. Donc, ça peut être un frein, même si je garantis pas. Enfin, là, voilà, en l'occurrence, on s'était fait voler peut-être 3 piquets. Mais je peux comprendre que pour des courses qui peuvent avoir des budgets serrés ou qui s'entendent pas trop avec les autres pour pouvoir échanger le matériel, bah, de te dire, je vais investir dans des piquets ou dans des fanions et qui coûtent cher et je vais me les faire voler, ça peut Ça peut mener à de la réfraction. Donc bah là, pour le coup, oui, on peut dire aux organisateurs, bah, faut tenter et tout, mais il faut aussi se mettre à leur place, ou des fois, ça peut être ric-rac niveau budget et que bah, ça fait chier, quoi, si on investit dans des fanions, qu'on s'est fait voler, qu'on a du débalisage. Ouais, donc là, c'est un peu aussi à chacun de prendre ses responsabilités, quoi. Parce que la rue balise, moi j'en trouve encore. Enfin, il y a plein d'endroits, c'est hyper facile à oublier. Enfin, je veux dire, il y en a plein dans les forêts. Hein. Il y en a plein.
Ouais, c'est-à-dire que le
Et les
débalisage,
traces à la bombe aussi.
ouais, trace à la bombe. C'est-à-dire qu'on en revient sur ces questions après. C'est-à-dire que le balisage, il faut débaliser.
Bon, ça se fait, ça.
Ça se fait
Ça
bien.
se fait.
Certains vont le faire et tout. Alors, s'il faut récupérer des piquets, ils vont le faire peut-être plus facilement parce que ça coûte plus cher. Rebalise, ils peuvent en oublier, etc.
Non, l'avantage quand on balise au piquet, c'est que quand on fait le balisage au piquet, on est 3-4, et là, il y en a toujours un pour dire « Non, mais arrête de trop baliser, puisque c'est moi qui ramasse tout tout seul à la fin. » Donc ça fait aussi que c'est des trails qui sont moins balisés, c'est plus joli. On balise que aux endroits où il faut. Mais c'est pas mal aussi en termes d'apprentissage pour utiliser moins, parce que c'est vrai que la rue balise, on a tendance à dire bah, j'en mets, j'en mets, j'en mets. Quand on a des piquets et que c'est lourd à ramasser à la fin, on se pose un peu plus la question. Et du coup, bah, sur l'impact esthétique que ça va avoir sur le sentier, c'est pas mal non plus, quoi, je trouve.
Mais tu sais que on en vient à se poser la question après limite de savoir si finalement la définition du trail tel qu'on le parcourt peut-être en Europe et qui est peut-être pas partout dans tous les mêmes pays etc. mais qui a un truc très balisé où t'as les rebalises, t'as les petits chemins, t'as les trucs comme ça, tourne à droite, tourne à gauche etc. Ou franchement tu vas, enfin moi j'ai fait des courses, tu vas les mains dans les poches.
Oui, c'est ça.
J'ai réussi à me perdre. Alors je dis hein, parce que j'ai réussi à me perdre sur un trail parce que j'avais loupé la rebalise qui était un peu planquée dans un coin. Mais peut-être que dans une définition ultérieure, dans cette question d'éco-responsabilité, de définition, etc., peut-être aussi on va revenir peut-être sur des définitions aussi où il y aura plus, j'allais dire, un peu d'autonomie, où il y aura peut-être moins de balisage, plus présent, où il y aura plus de. Bah, vous avez un GPS sur la montre, tout le monde a la trace, donc vous pouvez suivre aussi en partie la trace, et puis il y a quand même des points de passage réguliers, mais. Peut-être, on ne sait pas en fait, l'avenir du trail, comment ça va évoluer, parce qu'on peut imaginer plein de
Ouais.
choses finalement dans ces questions-là en fait.
Non, c'est super intéressant en fait, parce que et on le voit vraiment en fonction des organisateurs. Hein. Enfin, moi, j'en ai quand même fait pas mal j'ai quand même fait pas mal de bénévolat, donc j'ai vu vachement de systèmes de balisage et de philosophies en fait différentes. Et bah, j'en ai, ils vont dire, faut qu'il y ait un balisage à vue, faut toujours rassurer le coureur, donc faut toujours qu'il ait un truc en vue. Mais ça, quand on en parle aux coureurs, t'en as la moitié qui vont te dire, bah oui, mais c'était moche, il y a du balisage partout. L'autre moitié qui va dire, ah, c'est bien, c'était bien balisé. Il y a ceux qui disent, bah on en met vraiment. Il y a ceux qui vont être beaucoup plus dans le, on en met quand il y a des changements de direction dans des endroits où ça porte à confusion. Bah, typiquement, là, moi, j'ai fait un trail, je veux dire, c'était 1 km, enfin, c'était une verticale c'était sur 8 km. Bah, quand t'as qu'un seul chemin et que t'as le vide d'un côté et la forêt de l'autre, il n'y a pas besoin, et on avait très très peu de balisage sur ce trail. Et en fait, ça se passe bien. Enfin, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir du vrai. Enfin, le balisage, on va dire, il va servir beaucoup aux athlètes élites. C'est clair, il va leur servir beaucoup. Mais eux, les 3/4 du temps, ils ont une montre avec le parcours sur la montre. Le gros du peloton, bah, souvent, il n'est pas tout seul. Et puis, effectivement, il y a ceux qui sont derrière en dernier, mais techniquement, bah, si le balisage, il est correctement réfléchi, t'es censé pas te perdre, et puis au pire, il y a des serre-files. Et moi, je sais, hein, je me suis paumée sur un trail des passerelles de Monténard, le 42 km, avec un groupe, on est parti de l'autre côté, on a fait 500 mètres, c'est pas le bon sens, on est revenu. Et là, on s'est juste aperçu que c'était pas un problème de balisage. C'est nous qui étions en train de parler et qui avions pas vu du tout la grosse flèche. Donc voilà, le balisage, il est là quand il y a vraiment des gros changements de direction. Mais souvent, quand on se plante, ça peut arriver. Hein, ça s'est déjà arrivé qu'il y ait eu des gros soucis. Mais des fois, quand on se plante, c'est juste qu'on était en train de regarder autre chose, quoi. Et je veux dire, sur une ligne droite, à moins d'avoir des hallucinations, généralement, on ne va pas dans le fossé. On reste sur la ligne droite, on ne part pas.
Mais on voit hein, quand même que ces questions-là, enfin, franchement, c'est intéressant d'en parler parce que on voit qu'il y a une dimension, et on n'a pas parlé de la question alimentaire, parce qu'il y aurait tout la dimension aussi, mais enfin, on va en faire d'autres. On va faire d'autres épisodes, parce que je pense qu'il y a un gros domaine sur. Parce qu'on avait parlé d'un sujet qui était vraiment super intéressant sur l'alimentation du coureur hein, et l'impact et tout. Mais je pense qu'on va se le réserver parce que ça fait déjà 1h22, dis donc. Donc on voit que juste la partie écho, non mais c'est vrai que cette notion...
Il y aurait beaucoup de trucs à dire.
Il y a beaucoup de trucs à dire et c'est vrai que cette question qu'on doit tous se poser, c'est de se dire comment on va pouvoir pratiquer le plus longtemps possible des sports nature. Parce qu'on apprécie d'aller dans la nature, il y a des bénéfices sur la santé.
Ouais.
On le sait, franchement, toutes les études montrent que aller dans la nature, voir du vert, des arbres et tout, ça fait du bien, que tout le monde en a besoin, que notre corps est câblé là-dessus, donc on en a besoin, etc. Et qu'il y a un équilibre à trouver, que c'est quand même beaucoup plus sympa de la nature quand c'est propre, beau, qu'on peut en profiter, qu'en plus si on voit des animaux, on est tous heureux, hein, franchement.
Ouais.
Même les marmottes.
Les fleurs aussi.
Hein,
les fleurs aussi.
Les fleurs aussi.
Les fleurs aussi.
Moi, je me bats avec ma fille pour qu'elle ramasse pas les fleurs. Je dis, mais laisse-moi ces fleurs ici. Alors, tu sais, j'essaie de l'arnaquer. Enfin, c'est même pas une arnaque, hein, en disant, mais écoute, les abeilles, il faut qu'elles puissent manger et tout. Arrête de m'enlever ces fleurs de la nature et tout. Mais c'est. Elle me dit, mais elles sont belles, les fleurs, papa. J'ai envie de les ramener et tout. Mais il y a vraiment des questions d'éducation, de plein de messages à,
ouais,
à, tout, à faire passer, etc. On voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. De faut-il prendre l'avion pour aller faire des courses ? Alors, on ne va pas revenir sur la Réunion parce que là, c'est un cas vraiment particulier, mais qui est valable en France,
oui,
qui est valable dans le monde entier. Que des grosses organisations comme l'UTMB et compagnie devraient se poser parce qu'elles font des circuits, ça tourne dans tous les sens. Et que ça pose des questions aussi qui sont gigantesques, en fait, tout simplement, hein, sur les déplacements des gens. Moi, je connais des gens qui vont dire, bah, moi, je vais y aller que si je peux y aller en train. Et tu sais, dans le monde cycliste, on le voit beaucoup. Je vois des gens qui vont au départ des courses en vélo. Ils font une course de vélo de 1500 bornes, ils y vont en vélo.
J'ai un pote qui vient faire la VVX. Il vient d'Allemagne faire la VVX, il vient à vélo.
Voilà. Donc, on a ces genres de comportements, on a ce genre de réflexions qui arrivent aussi, qui posent des questions, qui peuvent paraître des fois, pour certains, un petit peu trop excessive. Mais en fait, quand on remet tout dans un peu les contextes, etc., on se rend compte qu'en fait, c'est bien qu'il y ait ces réflexions, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens aussi qui réfléchissent aussi de manière à aller plus loin pour que ça entraîne des gens. Et comme tu disais, tu as parlé de nudge. Pour ceux qui ne sont pas au fait de la notion de nudge, c'est les petits, les petites incitations. C'est comment des tout petits trucs peuvent déplacer... modifier un flux ou faire modifier un comportement. On a besoin aussi de tout ça. On a besoin aussi qu'il y ait des gens qui fassent des essais, qui montrent que c'est possible, qu'on peut faire les choses différemment, qu'on n'est pas obligé. J'ai vu des gens qui se disaient on n'est pas obligé d'aller faire l'UTMB tous les ans. Peut-être qu'on peut le faire une fois tous les X années, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont... Mais en tout cas, qui reviennent sur cette idée de dire si on veut vieillir, on veut faire du sport pour être en bonne santé, pour vieillir, profiter de la nature... Il faut aussi qu'on trouve un moyen pour qu'on puisse le faire le plus longtemps possible et que ça fait partie aussi de la démarche finalement qu'on doit avoir. Et on a parlé de trail, on pourrait parler de VTT, on pourrait parler de gravel,
de rando, de ce qu'on veut.
Ceux qui font du canoë, ceux qui font du surf, ceux qui font de la rando, ceux qui font du qui dorment dehors sous une tente. Enfin, on peut parler de on peut parler d'escalade, d'alpinisme, parce que si on parlait d'alpinisme, tu parlais de l'Everest, on parlait du Mont Blanc, avec la queue. On sait que la pollution sur les sommets de himalayens est énorme, énormissime. Hein, t'en parlais aussi sur les déjections. Enfin, on voit que tous ces trucs-là, c'est un truc qui est vraiment massif. En fait, du moment qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se déplacent, ça devient un vrai gros enjeu sur lequel on peut avoir plein de réflexions. Et on va continuer à les avoir, hein, parce que comme ça, ça fait partie des
C'est vrai que on a beaucoup parlé là, pas mal des événements, des choses comme ça, mais moi c'est vrai que j'avais fait des recherches aussi, mais à l'échelle individuelle, je pense qu'à l'échelle juste soit de sa pratique, hein, parce que mine de rien, l'événement, on y va une fois, deux fois, trois fois dans l'année, mais pour ça, on s'entraîne tous les jours au quotidien.
Ouais.
Donc oui, on parle beaucoup des événements, des questions d'avion, des questions le carbone, on en parle beaucoup, mais les questions de biodiversité et de vie quotidienne et de s'entraîner au quotidien et des trucs tout bêtes. Hein, et là, on n'a pas trop parlé des espèces invasives, hein, mais c'est aussi une sacrée question. Et là, c'est aussi au quotidien. Il y a des choses qu'on peut faire nous et qui sont pas effectivement, comme tu disais, il y en a qui vont prendre vraiment des choses très très hautes, mais s'inspirer de ces gens-là et se dire bah je peux faire des choses aussi à mon niveau et c'est pas inutile, il y a plein de trucs à faire et je pense que voilà, il faut réfléchir à sa pratique, se poser les questions et c'est pas juste y réfléchir en mode c'est bien c'est mal, c'est réfléchir bah pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans Et en fait, c'est un privilège qu'on a de pratiquer ce sport. C'est pas quelque chose qui nous est dû, en fait. On a de la chance de pouvoir le pratiquer et il faut être respectueux envers ça. Faut prendre la conscience qu'on a et il faut apprendre. Franchement, j'ai envie de dire, mais apprenez à connaître la nature parce que, punaise, quand on commence à s'intéresser à la botanique, bon, si vous voulez, l'entomologie, l'ornithologie, ce qu'on veut, il peut faire un temps de merde dehors, on peut faire 14 fois le même sentier, on verra des trucs différents à chaque fois. Voilà. Donc, c'est pas juste pour. Franchement, depuis que je me suis intéressée à la botanique, mais je m'emmerde plus sur les sentiers, hein. Il n'y a pas un endroit où on dit ah, c'est moche quand même, je me fais chier. Ben non, oh, il y a une petite fleur, oh, il y a un papillon. Voilà.
Et puis des fois, on découvre des trucs magnifiques. L'an dernier, j'ai découvert l'hélichrys, tu sais, la fleur d'hélichrys que tu trouves dans tous les trucs de
Ouais.
massage. Et l'odeur, vous la
Oui.
connaissez, tous ceux qui se massent. Il y a des hélichrys dans plein de produits qu'on utilise pour le sport. La fleur est magnifique, on trouve ça au bord de la mer et tout. Moi, j'ai une application qui s'appelle PlanteNet sur mon téléphone. Quand je vois une petite
Ouais,
fleur, bam!
génial comme
Et
appli.
ça, alors vous faites la photo de la fleur, de la feuille, ça vous dit c'est telle plante, c'est tel truc. Et l'an dernier, comme ça, une fleur, je disais, oh, qu'est-ce qu'elle sent bon? Elle me rappelle quelque chose. On fait une photo, on dit, oh, de l'hélichrys. J'ai dit, tiens, allez, c'est ce truc-là qu'on
En
utilise.
fait, ah mais c'est PlantNet, c'est génial et d'autant plus que si vous avez la possibilité en fait de partager quand on est sur l'application, on a la possibilité de partager l'observation parce que PlantNet peut se gourer dans l'identification, elle peut se tromper d'espèce, hein, ça arrive. Mais en partageant en fait la position, ça contribue aux sciences participatives et après il y a des gens qui vont venir regarder et potentiellement bah, ça donne des infos sur l'évolution du cortège floristique, etc. Donc c'est vraiment c'est une super application.
Voilà, donc
Et
je mettrai
puis,
le lien en description de l'épisode parce que
ouais,
pour ceux qui
franchement,
connaissent pas, allez voir PlanteNet. C'est vrai que comme ça
c'est trop cool.
tu reconnais les petites fleurs, tu reconnais les trucs, etc. et tout. C'est chouette. Et puis, bah écoutez, la prochaine fois vous irez vous balader dans les Alpes ou dans les Pyrénées, si vous voyez une marmotte, dites-vous que la marmotte.
Regardez, moi je mets un défi aussi, essayez de voir, on a plein d'orchidées métropoles.
C'est vrai.
Il y en a plein qui sont trop belles, mais il faut les chercher, il faut regarder.
Et l'autre jour, j'ai vu des gens qui ramassaient des plantes. Ils disaient, vous savez que ça se mange, ça se mange, ça se mange et tout, qu'il y a plein de trucs comme ça et tout. C'est vrai qu'on ne sait pas, on s'en rend même pas compte. Et il y a plein de gens qui passent là comme ça à toute vitesse, etc. Voilà. Moi, je fais partie de la team qui, quand je vois des belles couleurs dans le ciel, je m'arrête pour faire une photo, pour profiter de l'instant. Je coupe même pas ma montre. Je m'en fous de mon bilan Strava, etc. à la fin du truc. Donc là-dessus, je suis assez. Je vois le truc. Je regarde, je me pose, j'attends, je regarde le truc qui passe.
Ouais, alors moi c'est les plantes hein, mais ça peut être il y en a, ça peut être les animaux, ça peut être les cailloux, enfin il y a plein de trucs en fait. Quand on apprend à connaître la nature, c'est là qu'on se rend compte à quel point en fait c'est on la protège pas juste pour la protéger, c'est juste qu'on peut enfin ce serait vraiment dommage de plus pouvoir y aller parce que il y a plein de trucs trop cool quoi. Ça demande un peu de regarder, mais on a plein d'outils maintenant. Là, il y a PlanteNet, il y a iNaturalist qui est beaucoup plus large. Alors là, par contre, c'est au niveau mondial. Et iNaturalist, on peut aussi avoir les insectes, les oiseaux, etc. Donc, c'est une application qui est sympa aussi à avoir. Et puis après, rien n'empêche, on peut prendre des photos. On prend juste une photo, puis rentrer chez soi, on peut s'amuser. Moi, j'aime bien faire ça, c'est je prends une photo, puis après, il y a des clés de détermination. Pour les papillons, pour tout ça, et en fait, en fonction de la photo, on clique sur les caractéristiques, puis on arrive à l'espèce. Et ça peut être assez ludique à faire aussi, c'est sympa, pour apprendre à découvrir un peu ce qui nous entoure.
Eh bien écoute, sur ces bons conseils, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je mettrai les liens en note de l'épisode vers ton compte Instagram. T'as fait des trucs en ligne, hein, pour les gens qui sont intéressés par tout ça en fait, hein.
Bah là j'ai fait effectivement pour mon DU Trail je peux mettre sur je crois que j'ai mis sur Calameo en fait le mémoire, je peux envoyer le lien s'il y en a qui sont intéressés de regarder. Et puis après ouais moi sur mon compte Instagram c'est vrai qu'en ce moment je mets pas grand chose et j'essaye petit à petit d'avoir un compte aussi où je mets de la photo pour apprendre un peu. Donc là j'ai pas encore mis publiquement mais je mettrai je pense le lien dans la bio. J'ai pas mis grand chose encore mais l'idée, c'est de faire un peu découvrir aussi au travers de la photo qui est plutôt artistique, en fait, des plantes, et de faire un peu à la fois bah, le côté artistique et le côté apprentissage, quoi. Voilà.
Voilà. Eh bien, écoute, sur ce, moi, je mettrai les liens, en tout cas, parce que j'ai les liens, donc je les ai, donc je cliquerai dessus. Donc, allez voir dans la description de l'épisode. Et puis, on se retrouve bientôt. Alors, déjà, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la partie alimentation. Alors, je pense qu'il faut... l'alimentation éco-responsable, il y a un autre truc aussi. C'est vrai, parce qu'on en avait abordé, on en avait parlé de ce sujet-là. Il faut qu'on l'aborde. Et puis, on a encore un autre épisode qui est prévu. Tiens, tu vois, on avait prévu deux épisodes, on va en faire trois, ça se trouve.
Ouais.
Hein, écoute.
Ça
Ah, ça va, c'est un bon sujet. En tout cas, Élise, je te remercie beaucoup. C'est passionnant. Et franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui vont réfléchir. Moi, je ne regarderai plus jamais les sentiers pareils. Le petit panneau du sentier, pourquoi il est comme ça, quel endroit il est placé, pourquoi il y a une barrière et tout. Je verrai totalement différemment, tu vois, ce petit sentier là que j'ai vers la maison. Pourquoi j'ai un sentier qui apparaît, pourquoi j'en ai un autre qui disparaît, tu vois, dans mes forêts aussi. Parce que ça, je les ai remarqués, qu'ils apparaissent, qu'ils disparaissent et tout. Et maintenant, j'y ferai attention. Bien sûr, je mets les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie en tout cas pour ta passion sur le sujet et de nous non mais d'avoir partagé aussi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de le côté sportif, on parle beaucoup des côtés alimentaires, on parle beaucoup de côté dépassement de soi, etc. Et on oublie finalement le lien avec la nature, l'environnement, qu'on est dans cet environnement-là, que si on veut en profiter, ben il faut y réfléchir aussi, que ça concerne notre pratique au quotidien, les entraînements, hein, est-ce qu'il faut prendre la voiture pour aller s'entraîner, est-ce qu'on va, comment on fait, sur quel chemin, est-ce qu'on, voilà, tout un tas de questions qui, je pense, sont en train de s'allumer dans la tête des gens, tu vois, au fur et à mesure. Et en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps et puis pour avoir partagé toutes ces réflexions-là, toutes tes connaissances. Et puis, bah écoute, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures, hein, sur les épisodes. Et puis nous, écoutez, on se retrouve bientôt aussi pour un nouvel épisode. Je n'ai aucune idée de l'ordre des invités dans les différents podcasts, donc je suis désolé, je peux pas le dire. Mais en tout cas, on va continuer à bouger et tout. Enfin, voilà, c'est comme ça. Allez, je te remercie, je clôture cet épisode. Merci beaucoup, Élise, et à très bientôt. Ciao, ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.